Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de l'apéro des papas manchots. Comme pour les 3 premiers, je suis accompagné par le roi de la claquette, l'indispensable, le formidable, l'inoubliable, bref, l'incroyable, John Gecko. Bonjour John, comment vas-tu ?
Bonjour, comme à l'ancien épisode, hein, je t'enverrai le lien avec les bitcoins pour ces fabuleux éloges. Bah écoute, ça va très bien, mais tu as oublié quelque chose, tu as oublié la chanson, et un, et deux, et trois manchots.
Attends, je n'ai pas... Ah !
Qui est le troisième ?
C'est pour ça que j'ai eu un blanc. Mince, j'avais oublié. Ah, mais attends. Et je cherchais encore comment j'allais l'introduire, tu vois. Mais il n'y a rien de scabreux avant de le dire. C'est que il a commencé en tant qu'invité. Au début, il a voulu spammer en essayant de dire tiens, je veux parler de mon association. Puis finalement, il s'est bien senti chez nous, entre John et moi, avec notre chaleur corporelle, notre odeur de chaussettes qui pue. Et finalement, il a décidé de rester. Eh bien, il a juste un seul défaut, c'est que nous, c'est l'apéro des papas manchots, et il n'est pas encore papa. Donc, logiquement, il aurait pas dû être, confirmé comme titulaire, mais comme c'est la fin du mercato du football bientôt, on a décidé quand même de le recruter. On a le plaisir de confirmer que Morgan fait dorénavant partie de l'équipe de l'apéro des papas manchots. Bonjour Morgan, comment vas-tu?
Bonjour. Bah, j'ai un peu chaud, pris en sandwich entre vous deux.
Ça va.
Ça veut pas dire que Alpinux ça finit parce que on a un gros épisode en mars qui se prépare. On a l'accord pour avoir les locaux, les studios d'enregistrement, et possible qu'on enregistre le prochain petit épisode vendredi de la semaine prochaine.
Oh là là là.
Mais c'est pas sûr.
Il va être en dilettante, c'est un liberta du podcasting, Morgan.
Ce n'est pas grave, tu sais. Chez les titulaires, il y a les remplacements, c'est pas grave. Il y a les transferts.
Il y a la première et la deuxième division.
Ouais, c'est ça. Nous, c'est le top en partant du bas.
Voilà.
C'est essentiel.
C'est la dernière page de Google.
C'est essentiel de prendre un pied pour sauter plus haut.
Exactement. Alors, on va pas trop s'étaler parce qu'on a quand même un sommaire qui est bien chargé. Alors, on a décidé d'inverser un petit peu par rapport aux autres épisodes. On va commencer par des news et ça sera John qui va commencer. Alors, à propos John, tu vas nous parler d'un câble si je me trompe pas?
Eh oui, une bonne nouvelle pour nos amis des Tom. C'est le câble Orange à partir du deuxième semestre de 2018. Bon, bah, c'est pas tout de suite, hein. Orange va mettre presque 2000 km de fibre optique entre la Guyane et les États-Unis, il me semble. Enfin, il sera raccordé, oui, c'est ça. Donc, pour 2018, j'ai eu la news sur le site Culture Geek. Donc voilà, c'est une bonne petite nouvelle. Par la même occasion, ça va être... Et voilà, c'est ça, j'ai retrouvé exactement mes notes. Donc ça sera de la fibre optique, donc sous-marine, qui passera de Cayenne. De Cayenne et Saint-Rémy et Rémy-Montjoli. Donc voilà. Et là, ça aura pour but de... d'améliorer les connexions entre la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Voilà. Et bien sûr, ça offrira un lien direct entre la Guyane et le continent américain.
Le FTTH.
Voilà. Et donc, du coup, les débits théoriques seraient de...
développement d'FTTH, donc,
attention, ça va te faire rêver des cas. 5 terabits seconde. Parce qu'en fait, il y a deux paires de fibres.
Ouais, mais non. Ça, Ouais, non, mais, ouais, mais non, 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 ça, 5 thérapies de seconde, non, 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 et moi, je veux bien, mais non, non. Déjà, s'ils arrivent à mettre du 1 thérapie, attention, ça sera déjà bien. Mais là, j'ai un petit peu de mal à y croire, pour l'instant,
ah oui.
Mais bon, tant mieux, hein, moi, je demande à voir, et
oh,
puis si c'est ça, je vais déménager.
Je sais pas, écoute.
Voilà, écoute, on verra bien. Parce que bon, je suis censé avoir de la fibre optique courant du deuxième trimestre dans mon petit village.
Ah,
hein, donc,
bah, il faut attendre. De toute façon, c'est pour deuxième semestre 2018, les travaux vont commencer. Bon, c'est de la fibre optique, en plus c'est sous-marin, ça va pas se faire en deux jours.
Ah oui, bon bah c'est pas avant 2020.
Donc voilà, une petite news bien sympathique pour nos amis des Dumtums, quoi. Pouvoir récupérer un petit peu de fibre, ça peut déjà qu'ils sont pas trop aidés, hein. Mais bon, on va pas les plaindre, ils ont le beau temps quand même, hein.
Oui, c'est sûr que nous ceux qui sommes dans le nord, on n'est pas dans un microclimat entre les montagnes, pas comme certains.
Effectivement. Oups.
Alors, ouais, oui, non, c'est moi, mais on a failli perdre Morgane entre deux. Voilà.
Oui.
T'avais une petite news concernant également les logiciels libres et les bonnes pratiques.
Ah oui, oui, oui. Alors c'est, oui, oui.
Ok. Et juste, je voulais réagir sur la news. J'ai essayé de parler plusieurs fois, mais j'étais en mute, j'ai pas fait attention. Donc je viens de regarder sur ta news, je viens de cliquer et j'ai regardé. Et donc déjà, je viens de découvrir que la Guyane, c'est pas loin du Venezuela. Donc déjà, grosse claque géographique dans ma tête. Et en fait, le truc, ça part de la Guadeloupe pour aller jusqu'en Guyane. Donc c'est-à-dire, genre, en Guadeloupe, ils sont déjà équipés de fibres, eux, et ils transmettent la fibre jusqu'à la Guyane. C'est ça, où j'ai pas du tout compris le truc.
Ouais, oui. En fait, ils se récupèrent sur, si tu regardes bien, t'as d'autres câbles, hein, qui se
à
baladent.
Puerto Rico,
t'as le
SAM
1, l'America S2. Le Global Net Atlantica, en fait, je pense qu'ils se repiquent sur ces câbles-là pour ensuite redispatcher ces zones-là.
Voilà.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, celui de la Puerto Rico, là, de la République Dominicaine.
Et puis,
je vois pas
puis
Cuba
accessoirement apporter la 4G.
Ouais, c'est pas les satellites, la 4G?
Bah, normalement, la 4G passe par le, oui.
Ouais.
La 4G passe par le réseau mobile, mais bon. Bah, normalement, c'est en 4G. 4G, c'est satellite. Bon, après, peut-être qu'on se fera taper sur les doigts par
notre
auditeur, mais pour moi, normalement, de la 4G, ça passe par le satellite, hein. Donc, ça, c'est du filaire, hein. Donc, non, ça, c'est ce qui te permet, justement, d'avoir l'accès à, notamment, bah, tu dois avoir un des câbles comme ça qui te permet d'accéder, genre à Blog Linux ou des choses comme ça, puisque ça se reconnecte après sur les serveurs de là-bas. Mais bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va espérer que ça vienne aussi dans mon petit coin. Bon, John.
Mais oui.
On va revenir sur la promotion des logiciels libres et des bonnes pratiques. C'est les bonnes manières ou les bonnes pratiques, John?
Ah oui.
On n'a pas beaucoup de bonnes manières, donc on va espérer avoir des bonnes pratiques.
Oui, c'est les bonnes pratiques. Alors, ça fait suite à un tweet de notre ami Corben, qui, je sais plus exactement le tweet en question, mais qui disait, en clair, ça serait bien que certaines de ces... Je recommence. Ça serait bien que certains manchots défenseurs du libre le relisent. Il date de 2011, je crois, cet article. Je vais revérifier vite fait, là.
Oui.
C'est ça, 2011.
C'est 2011.
Et en fait, c'est plusieurs... ça permet de... promouvoir efficacement le libre, les choses à faire et à éviter. Par exemple, le premier point, rapidement, dès qu'une occasion se présente, parlez ouvertement et régulièrement du logiciel libre avec vos amis et vos proches. Bon, c'est ce qu'on fait. À éviter. Et là, surtout, toujours dans le premier point, mais cette fois-ci dans les choses à éviter, critiquez les autres pour leur désintérêt ou leur manque de compréhension du logiciel libre. Point. Essayez plutôt d'écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous en essayant de ne pas les forcer à adopter votre point de vue. Le logiciel libre est un sujet intrinsèquement important, mais si une personne en particulier ne peut en appréhender sa valeur, alors n'insistez pas et attendez de trouver quelqu'un d'autre qui sera prêt à poursuivre la discussion avec vous. Donc c'est plein de petites directives, de petits conseils à appliquer et à éviter, hein, selon les trucs. C'est pas très long, hein. Il y a 8 notes, donc ça fait 16 en tout. 8 à faire, 8 à éviter. Et voilà, j'ai trouvé ça... Je l'ai mis dans du côté des news, parce que je l'avais pas lu avant, en fait. Oui, voilà, limite, on peut reclassifier ça comme ça, mais j'ai préféré donner le nom de l'article en question. Sachant que ça a été fait et retraduit avec Framapad. Voilà, c'est les 8 commandes. Et donc voilà, c'est...
Ok. Et tu sais, John, t'as une mission pour le prochain apéro, t'es obligé de les apprendre par cœur.
À la rigueur, tu m'aurais dit de retoucher, faire un petit truc en GIMP. Non. En tout cas, c'est sympa à lire et voilà, c'est...
T'auras une interrogation, hein, et il y aura pas d'anti-sèche, hein. Ok. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que Morgan, tu veux tout de suite faire ta news ou pas?
Ouais, bah moi j'en ai deux.
Comme ça, John, tu feras ta commande après?
Oui, enfin, je la gardais pour la fin, mais...
Tu peux la faire plus tard, John, comme tu veux.
Moi, j'étais plus pour la faire vers la fin, donc...
Ouais. Tu la gardes pour la fin? Bah écoute, on va faire... Morgan va faire sa news à ce moment-là. Problème, tu sais, moi, c'est ton émission.
Donc,
j'ai la clé aussi.
J'avais deux news, est-ce que je dis les deux ou est-ce que on se partage des cas?
Oui, tu feras les deux, oui.
Ok, alors la première, bon, elle est vraiment d'actualité.
Moi, je la ferai à la fin, ma petite news, elle va être rapide.
Qu'on ont écouté le podcast qui pourront en bénéficier. Alors, lors de l'épisode précédent, on a fait une petite digression gaming et puis je t'avais un petit peu enguirlandé, on va dire, pour te dire, quand un jeu est annoncé sous Linux et qu'il est toujours pas fait, il faut pas acheter, tu vois, genre aller sur Windows. Bah en fait c'était le cas de Civilization, donc je suis un grand fan de Civilization. Et genre Civilization 6, tout le long ils ont dit oui, il sera disponible sur Linux, et puis au moment du lancement, bah il était pas dispo Linux. Et donc voilà, j'ai patienté, et pour s'excuser, aujourd'hui, aujourd'hui le 9 février jusqu'au 13 février, ils font moins 20% sur le jeu quand tu l'achètes pour Linux, et il fonctionne. Par contre, seul bémol, il est disponible que pour Nvidia. Nvidia apparemment c'est actuellement sur Linux c'est peut-être bien la meilleure carte graphique. Je vais la tester avec les nouveaux pilotes graphiques qui sont apparus là, mais ça 13. Mais je reparlerai plus tard de ça. Les pilotes, les supports des Radeon et tout, ça s'est un peu amélioré, donc je pense que je vais l'acheter. Puis parce que moi j'ai une Radeon et on va voir si ça va fonctionner. Donc voilà, petite news, on a Civilization 6, on a enfin Civilization 6 sur Linux et en plus en réduction. Deuxième actualité,
ça va être sympa, hein, franchement, j'étais en train de regarder l'intro du jeu.
Ah ouais, c'est
un clat.
Ah, Civilization, honnêtement, ce que je reproche, c'est que c'est long. C'est vraiment long. Tu sais, moi, genre, je joue sporadiquement, je jouais genre 2 heures dans la semaine. Alors, une partie, ça peut facilement durer 1 mois, 2 mois, tu vois, en jouant à ce rythme.
Ah ouais, d'accord.
Donc, à moins que je me tape des périodes de jeu intensif où là, je peux y passer le week-end dessus, parce que des fois, ça m'arrive des boulimies de jeux vidéo. Mais sinon, ce que je reproche, c'est que les parties sont longues, quoi. Mais bon, c'est son charme aussi.
Ah, parce que c'est, ah ouais, ouais, non, mais moi, je connaissais pas le concept. C'est vraiment, ça monte, ouais, ça repart de l'antiquité jusque le futur, quoi.
Jusqu'à tu construis une fusée pour aller dans l'espace.
Ah ouais, d'accord.
En tour par tour et tout, c'est vraiment sympa. Il y a plein de choses et tu peux jouer sur l'aspect politique, tu peux jouer sur l'aspect militaire, tu peux jouer sur l'aspect commercial où tu commerces avec des cités-états, avec des autres peuples, diplomatique, culturel, religieux. Il y a vraiment plein de façons de jouer et le jeu est très ouvert et très complet.
Ah ouais, il y a de la castagne, il y a de la bagarre.
Tu peux, mais tu peux jouer à d'autres façons aussi.
D'accord. Ah, c'est bien ça. Non, c'est franchement, je connaissais pas vraiment. Moi, j'étais plus sur les jeux genre RTS, Age of Empires et tout ça, mais je pensais pas que c'était un jeu de ce style-là. C'est plus un jeu de gestion en fait. C'est pas vraiment un jeu de.
C'est de la strat aussi, mais c'est en tour par tour. Moi, je préfère mille fois le tour par tour où tu prends le temps de réfléchir, ou à faire un StarCraft où faut être le plus rapide du clavier, quoi, en gros.
Ah non, mais StarCraft c'est injouable pour moi. J'ai pas les réflexes. Ça peut être vraiment pas mal. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire, il est gros comme jeu, il bouffe beaucoup de ressources.
Mais non, faut engager des bots.
pardon, excusez-moi, j'ai pas compris.
C'est coupé, mais je pense qu'on a un petit problème de décalage pour cet épisode, hein, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué.
Parfois j'ai 5-6 secondes de décalage.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc John, vas-y, je crois que t'avais quelque chose à dire.
Non, je disais, pour StarCraft, il faut juste engager des bots.
Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas coréen non plus et je passerai pas 16 heures par jour à jouer à ça. Ah non, mais bon, celui-là, il a l'air d'être pas mal. Mais tu joues en ligne aussi, non?
Ouais, tu peux jouer en ligne aussi, mais tu peux aussi jouer moi je joue en local. Ouais. C'est vachement bien, tu mets ta partie, tu sauvegardes, tu mets ta partie en pause, tu la reprends plus tard, c'est posé, c'est stratégique, t'es pas obligé de t'arrêter, tu sais, genre faut aller manger, bah hop, tu t'arrêtes, tu fais sauvegarder, tu t'arrêtes, c'est...
D'accord, ouais, parce qu'en fait, quand tu joues en ligne, de toute façon, ça doit être limité, non? En temps, ces parties-là.
Ouais, il y a moyen. Honnêtement, j'ai jamais fait en ligne parce que déjà tout seul, quand tu joues avec une IA donc qui va super vite, c'est long. Alors si en plus je devais attendre chaque joueur, genre je vois moi. Au début, tes tours, ils durent 30 secondes, mais en fin de partie, tes tours, c'est 5 minutes, quoi, le temps de gérer. Parce que la map, elle devient de plus en plus grande, tu gères de plus en plus de choses, et le temps de gérer tous les trucs. Ouais,
c'est ingérable, quoi. Ok, ok. Non, bah, écoute, bonne nouvelle, quoi, 20%. Bah, écoute, on va essayer de se dépêcher de monter l'épisode pour que les auditeurs puissent en profiter. Et t'avais une deuxième news.
Ouais, je voulais parler de... Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. CryFS, CryFS pour File System. Alors en fait c'est un nouveau truc qui vient de sortir, c'est en bêta. Je l'ai testé vite fait, j'ai pas encore été trop loin. En fait le principe, enfin moi, souvent en fait ce que je mets en partage. Alors j'ai déjà mon propre OnCloud à moi et parfois pour certains trucs, enfin j'ai abandonné Dropbox, mais parfois pour certains trucs quand j'étais à la fac j'avais du Dropbox. Et en fait, vraiment, ce qui m'embêtait, genre, j'avais un fichier super précieux où je mettais plusieurs mots de passe dedans, des trucs que j'avais besoin de pouvoir accéder de partout, ou genre des trucs d'identité. Mais ça me faisait vraiment chier de mettre ça dans du cloud, quoi. Mais parfois, j'avais pas le choix, surtout au début. Maintenant, avec OnCloud qui est plutôt bien répandu, voilà, je l'ai sur mon mobile, je l'ai sur mon serveur, je l'ai installé, ça marche. Mais avant, c'était pas comme ça. Bref, et puis surtout si je me fais pirater mon OnCloud, là CryFS en fait c'est un système de fichiers qui monte un dossier encrypté et tout ce que tu mettras dans ce dossier ça va être crypté. Alors en fait et le fichier qui contient ton mot de passe de décryption il est aussi crypté par lui-même, enfin c'est par le même mot de passe, donc faut surtout pas perdre son mot de passe. Alors c'est vachement bien, c'est que du coup quand tu utilises des Dropbox, OneDrive, G-Drive, Google Drive et compagnie là, en fait ça te monte t'as un dossier dans lequel tout ce que tu mets dedans va être surveillé. Quand tu vas le modifier, ça va l'uploader sur Dropbox. Ou quand il y a une modification sur Dropbox, ça va te modifier ton dossier en local. Et donc l'idée, c'est de monter donc un file system crypté. Et donc tous les fichiers qui vont être captés, ils vont être cryptés. Et comme ça, tout ce qui traîne sur le cloud, c'est du 100% crypté. Et t'as pas à te trimballer avec une clé GPG ou quoi partout pour pouvoir décrypter tes données partout. Là, il suffit de réinstaller le logiciel, de se souvenir du mot de passe et tu peux le décrypter de partout. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne solution quand t'as pas le choix d'utiliser des services cloud comme ça. Ça permet d'avoir un peu, de reprendre un peu le contrôle sur ces données. Et surtout quand t'as des documents confidentiels, comme si tu mets des RIB bancaires ou des cartes d'identité, des photocopies d'identité, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment très important. Bon, c'est encore en bêta. J'ai pas creusé plus profondément, genre quel algo de cryptage ils utilisaient ou quoi. Enfin si, j'ai vu les leads de cryptage, mais j'ai pas vu comment c'était fait. J'ai vu qu'ils utilisaient du CBC. Enfin bon, bref, on va pas parler cryptage tout de suite. Mais voilà, ça a l'air prometteur. C'est encore en bêta, donc pas forcément mettre trop d'engouement tout de suite. On va dire que c'est un logiciel, il est encore enfant, quoi. Mais garder un œil jusqu'à temps qu'il devienne adolescent et qu'il puisse avoir la voix un peu grave, quoi.
C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a l'écho des gnous qui a fait un gros épisode à propos de ça, justement le stockage, éviter justement tout ce qui est crypto, et justement il disait un truc tout bête. Non, tout ce qui est crypto.
Éviter ce
dans
qui est
le
crypto.
Sens où quand on te propose quelque chose qui est censé être crypto, t'es pas censé pouvoir récupérer ton mot de passe. Il disait que si tu pouvais récupérer ton mot de passe, c'est que tu pouvais notamment c'est qu'il y avait un backdoor quelque part. Donc là au moins avec ça faut voir comment ça fonctionne, mais ça pourrait être une solution pour stocker chez toi et éviter ce genre de problème.
C'est qu'il est pas vraiment crypté.
Si c'est vraiment crypté, ça peut être une bonne solution.
Un des logiciels de cryptage là sous Linux, ça fait le buzz. Je sais pas si t'es laissé dans le logiciel ou quoi, mais en gros t'appuyais sur P simplement et ça décryptait n'importe quel fichier exprès. Ouais, ça fait mal du tout, sécurité ça.
Ok. Est-ce que t'as fait le tour de cette news ou t'as encore quelque chose à rajouter?
Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Ok. Alors moi, je vais vous parler d'une petite clé USB qui tourne sur Linux et qui a l'air d'être assez extraordinaire. Ça s'appelle la clé Xtra PC. En fait, ça fonctionne sur des vieilles machines, hein, qui tournaient jusque Windows XP, donc des machines.
À partir de ou jusque?
À partir de Windows XP.
Ah, à partir de
Windows XP. Alors, c'est une petite machine qui tient sur la clé, hein, vraiment. Et en fait, il faut juste réussir à la. T'as même pas besoin d'aller dans le BIOS pour la faire démarrer sur la clé USB. A priori, justement, j'étais en train de regarder une démo du fonctionnement. Tu mets ta clé, boum, ça démarre. Hein. Donc et ça lance un Linux. Alors ça te promet de récupérer, de pouvoir redonner une seconde vie. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est ce qu'ils mettent là-dedans, parce que il y a peu de place pour le mettre entre le port USB. Je vois pas dans ce que tu mets. Ah si, j'ai dit une petite bêtise. Faut juste que tu fasses le traditionnel échappe et que tu fasses ton démarrage sur ta clé USB. Donc une fois que tu as fait ça, après ça lance cette petite clé. Et justement, ben ça va être disponible dans les prochains jours. Alors quand vous regarderez sur le lien, ça vous dit à partir de 22€, mais en fait vous avez différentes configurations. Tout simplement cela. Ça ne dit pas s'il y a une meilleure spécificité technique, mais il y a plus de stockage. Après, il faut savoir une chose, c'est que d'après ce que j'ai compris, tu es capable de pouvoir réutiliser ton disque dur sur cette petite machine là, donc il n'y a pas forcément besoin d'un gros stockage. Après, je suis en train de regarder la vidéo, c'est bluffant la manière dont ça démarre. Et ça doit être quand tu regardes la vidéo de démo, ça ressemble à une Debian customisée, hein. Avec des liens, t'as du OpenOffice préinstallé, t'as du. T'as un lien Facebook, t'as pas mal de petites choses qui sont quand même qui sont pas mal, parce que notamment t'as une puce Wi-Fi dedans, donc déjà ça te fait économiser une petite dizaine d'euros quand t'as une vieille machine, tu l'as pas forcément. Et après, tu as même possibilité de récupérer ton navigateur et tout ça. Il t'explique justement qu'il y a Pandora dessus. T'as OpenOffice qui est installé.
OpenOffice.
Ouais, OpenOffice qui est installé dessus. Ah ouais. Par contre, ça c'est pas bien.
ouais, c'est un logiciel Apache.
Ouais, de toute façon, c'est un truc. Je suis sûr, faudra regarder la licence, hein, parce que ça doit être. Non, mais il y a déjà un Facebook, il y a OpenOffice. J'arrive pas à voir ce qu'ils te mettent dedans, parce que j'ai vu que c'est un. T'as du VLC, parce qu'il lance une vidéo. C'est par VLC, donc ça c'est bon, c'est déjà ça, mais ouais, a priori ça doit être un petit peu, y a pas que du libre là-dedans, hein. Mais bon, après ça peut faire la, je pense que ça peut faire la blague, et de toute façon je pense que ça fera l'objet d'un épisode, puisque je suis en attente de la commande, donc je pense que d'ici le prochain épisode on reparlera de ça, et je vous ferai un test un peu plus complet de cette petite clé.
Bah moi des cas, je comprends pas quelle est l'utilité. Enfin, entre tu prends une clé USB, tu te fais ton OS bootable, je vois pas la différence. Tu prends une distribution, c'est la même chose. Si l'avantage c'est que t'as le Wi-Fi intégré dedans.
Voilà.
Mais
après,
c'est tout, quoi.
Ouais, en fait c'est plus le fait que moi je l'ai déjà fait sur une vieille machine. Hein, j'ai installé une Debian. Bon, c'est une machine qui date de 2004. Donc c'est vraiment une antiquité.
Un ordinosaure.
Ah ouais. Bon, il boot, mais il est d'une lenteur sans nom quand il se connecte à Internet. Et j'ai un gros problème, parce que je peux, comme il se connecte lentement sur Internet, je peux pas faire des mises à jour de paquets, récupérer les plugins nécessaires pour afficher certaines icônes dans les pages, etc. Et c'est d'une lenteur sans nom. Donc je me dis, comme en plus, bon, dans mon cas, depuis 2 ans, on a eu un PC, 3 tablettes de cassé.
C'était du Gnome Shell que t'avais sur ton Debian?
C'est une vieille c'est une Debian qui, c'est, je l'ai installé par de la, la c'est, je l'ai installé en 2011, hein, cette Debian là. Donc, à l'époque, je me suis, je me suis pas cassé la tête, il est, c'est vraiment une vieille machine, hein, et c'est pour ça que je me dis, bon, quitte à, comme j'ai déjà fait, c'est, je me suis déjà fait 4 machines en 2 ans qui ont lâché. Je me dis, bon, quitte à investir 25 €, ça me voir avec les frais de port, je me dis au moins partir sur une petite machine, comme un petite clé comme ça, et on verra bien ce que ça donne sur cette nouvelle machine. Et puis bon, bah au moins après là, je l'abandonne, j'aurais perdu 25 € dans l'histoire, parce que bon, ouais. Vu les nombres de tablettes et de PC, on va éviter quoi maintenant.
Mais en fait, le PC ça, c'est juste la clé USB, on est d'accord, hein, ce que je vois sur le site.
C'est juste la clé. Non, c'est son vieux Dell, c'est un vieux Dell, quoi. C'est la clé.
Ok. Donc, par contre, bon, juste en fait. Là où je GG, c'est que, enfin GG, je suis sur le site et pas une fois ils mentionnent Linux pour effrayer le grand public. Tu sais, que genre les gens, tu vois, Linux, ils vont te regarder avec des gros yeux. Là, pas une fois.
Non.
Extra
non,
PC et je vois jamais le mot fonctionner.
Non, c'est un Linux, hein, ça se voit. Hein. De toute façon,
oui, ça se voit, mais moi les gens,
on dirait
ils ont
du LXDE. Hein. J'ai l'impression que c'est un LXDE qu'ils ont mis. Hein. C'est vraiment. Un truc vraiment le plus light possible. Et tu regardes, t'as différentes clés. Donc la première à 8 Go de stockage, 16, 64, 128. Donc, okay. Et la meilleure vente, a priori, c'est la 128 qui est actuellement à 49,99 $. La 64, pardon. Après, double la vitesse de base. Pourquoi pas.
Bon, après,
pourquoi
c'est bien, pas. C'est quand tu vas avoir un OS qui est transportable un peu partout.
Ouais. Ouais, mais là, de toute façon, après, à l'avenir, je pense que de toute façon, on fera beaucoup plus de choses sur du client léger, et on aura plus forcément besoin d'une machine performante. Mais bon, d'ici là, la Xtra PC Turbo 64 n'existera plus.
Ou peut-être qu'il y aura Xtra PC version 5.
Ouais, tu mets ça dans un petit boîtier style Raspberry Pi, voilà, quoi. Avec juste deux histoires de transporter ça, bon, pourquoi pas, ça peut faire la blague. Maintenant, je suis curieux, donc moi, quand ils me disent jouer à des jeux déjà, ça me fait rire.
Oui, c'est le Sudoku.
Ouais.
Le Sudoku, le solitaire.
Mais attention, il est quand même marqué surfer sur les réseaux sociaux, bah ouais. Regarder des vidéos YouTube Netflix.
Et des mineurs.
Ouais, là. 2048. Ah non, mais bon, après, je vais tester. Alors, je ne sais pas si je prendrai la version de base ou une version un peu plus améliorée, mais ça va aller très prochainement dans mon panier. Et puis, j'aime bien faire du shopping aussi. Écrire des emails et faire du shopping. Bah, c'est vrai qu'après Amazon, t'inquiète pas, je crois que même sur une calculatrice, ils arrivent à le faire booter le site. Hein. T'inquiète pas. Pour faire du pognon... Un jour, ils vont mettre des TI-82 avec du wifi intégré et tu pourras te connecter à Amazon, tu pourras remplir ton panier.
Et avec un micro pour bien te faire acheter.
Ouais, il y aura Alexa dedans.
Ah, vous avez entendu pas. Ah, j'aurais dû en parler, vous avez entendu parler ça, Alexa, le fail qu'il y a eu?
Non.
Aux États-Unis, non?
Non.
Tu sais, Alexa, c'est le truc, genre le Siri d'Amazon, là. Tu
peux oui, justement, c'est pour ça que je dis avec le micro. Si, la vidéo.
Ouais, enfin la vidéo. Je sais pas, attends, tu vas me dire si c'est la même histoire. Alors, attention, elle est longue l'histoire, elle est pleine de rebondissements. Alors, en fait, c'est... Oui, c'est ça, c'est la vidéo... Le mec, il regardait une vidéo YouTube qui présentait Alexa, qui achetait une maison de poupée. Du coup, la fille... Enfin, ça a commandé... le mec, il avait... je recommence mon histoire. Il y avait donc une personne qui avait l'assistant Alexa chez lui et qui regardait une vidéo YouTube qui présentait Alexa qui achetait une maison de poupée. La personne réelle qui avait Alexa, elle a entendu la vidéo YouTube, du coup elle a commandé une maison poupée. Donc, voilà, il s'est fait acheter une maison poupée. Mais attends, l'histoire elle s'arrête pas là. Du coup l'histoire elle a été relayée au journal local. Le journal local, ils ont diffusé et tous les gens, genre je crois quelque chose comme 1000 personnes qui écoutaient, leur Alexa leur a commandé une maison poupée. Attends, c'est pas encore fini. Et genre il y avait un gars en France, il parlait de cette histoire à sa copine qui elle-même avait Alexa et lui a commandé aussi la maison poupée. Alors, je t'explique pas comment ils sont devenus riches, hein.
Merci Barbie.
La maison poupée, ils ont fait leur meilleure vente.
Oh purée. On comprend
ouais,
pas
parce qu'ils achètent sans, enfin bref, ils achètent sans te demander ton avis avant, enfin sans te demander confirmation.
Moi, c'est un truc qui me fait franchement, voilà. Ça c'est le truc qui me ferait le plus flipper, c'est d'avoir ça chez moi. Parce que soi-disant, tu as le bouton mute et tout, ça coupe tout, mais j'ai pas confiance là-dessus. Moi, je ne sais pas ce qu'ils s'amuseraient à récupérer comme données là-dessus, parce que non seulement ça va être tout le temps connecté, donc tu sais pas où ça transfère. Hein. Ça va être bien proprio, ça va être bien bloqué ce truc-là. J'ai vraiment pas confiance là-dedans. Voudrais pas avoir moins de chaleur. Vraiment un truc comme ça chez moi. Déjà, j'ai jamais utilisé OK Google, Siri. J'en parle pas parce que j'ai jamais eu un iPhone et j'en aurai jamais. Alors ça, chez moi, en plus en permanence avec mes enfants et tout, j'aurais pas confiance quoi.
Ouais, mais c'est ça. En fait, plus que la protection des données, c'est que le machin, il peut t'acheter des trucs sans...
Ah ouais, en plus.
Sauf que tu dis, attends, ton fils, il va parler avec... Enfin, ton fils, ta fille, il va parler avec copain-copine.
Ouais.
Ah putain, je m'achèterais bien ça. Un magasin de bonbons arrive.
Allez, bing. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, hein. On a passé la période des Noël.
Une Ferrari F40, la vraie ou en Lego?
C'est exactement ça, hein. Pendant les périodes de Noël où t'as toutes les pubs pour les jouets et t'as ton gosse qui te dit ah, je voudrais ça. Ouais. Bah écoute, Papa Noël, il va devoir travailler comme un forcené pendant 140 ans pour pouvoir payer.
Non, il met carrément à côté de la télé. Et le truc, il commande.
Bon, enfin voilà, c'est
ok, ok. Bah, il a quand même... Non, mais il y a même pas de sécurité en plus. Ouais. C'est ça le pire, c'est que ça commande ça, quoi.
Bon, enfin voilà, c'était la fun fact.
Ah non, mais ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Bon, messieurs, est-ce que vous avez soif ou est-ce que vous voulez qu'on commence les geekages?
Commentaire, moi je dirais.
Commentaire? Oh là là, attends, j'ai soif avant. Hein. Attends, on en a pas eu beaucoup. Mais on va dire quand même qu'ils ont été. Je pense que là, c'est les commentaires les plus constructifs qu'on a eu depuis les premiers épisodes. Je vais pas non plus les lire en intégralité. On a reçu principalement des commentaires, et je les remercie au passage, d'Alter Libriste, Ozine, Z6PO, et une autre personne qui était sur Twitter, dont malheureusement j'ai oublié de retenir son pseudo. Alors, Alter Libriste, je suis assez d'accord avec toi concernant une chose, et je pense qu'on a décidé de ne plus le faire. On ne fera plus d'épisodes aussi longs que celui précédent. On a, d'une part, je pense que l'épisode a énormément dérapé. On a été tous un peu contents d'avoir un troisième dans l'équipe. Et...
Ouais, c'est ça, c'était pour me souhaiter bienvenue.
Voilà. Et je pense que là, c'est bien ça, c'est qu'on a eu, je suis d'accord quand tu précises que c'était bien trop long, qu'on avait du mal à traiter les sujets préférés, qu'on cessait de diverger. Et alors par contre, j'ai bien aimé après, il faisait ce que l'on peut apprécier dans un podcast, vous parliez de vous, de ce que vous aimez, d'avis par rapport à votre vécu. Du coup, c'était très intéressant, mais il y a beaucoup moins de choses contestables. Attends, il y a beaucoup moins de choses contestables d'avis de comptoir puisque vous n'avez parlé de quelque chose que vous connaissez. Ça, je suis d'accord là-dessus. Après, le côté avis de comptoir, etc. Vu que on est sur une discussion, on parle pas du contenu de l'épisode avant. Je pense qu'il y aura toujours un peu ce contenu, un peu de comptoir,
mais
etc.
C'est ce qui est le mieux. C'est ce qui est bien. C'est
ce qui est le mieux. Je pense que ça. Alors, oui, après, c'est vrai que les références à Blog Linux, etc., on va peut-être arrêter de le faire. Ils sont déjà très sympas de nous héberger. À l'avenir, on essaiera de couper un peu le cordon, hein, vis-à-vis d'eux, parce que bon, ils sont très sympas de le faire. Je le redis encore, je profite de cet épisode pour remercier encore une fois Patrick pour le travail qu'il a fourni sur le montage de l'épisode 3, qui a été épique. Je rentrerai pas dans les détails, mais moi j'ai déjà passé plus de 4 heures sur le montage et je pense que Patrick a dû passer pas mal de temps parce qu'il y a eu énormément de problèmes de son, mais ça.
La légende veut que Patrick ait perdu un peu plus de cheveux.
Oh putain, pas mal.
Bah quoi, c'est pas une très bien joke, ça.
Et Alter Libris parlait justement des des private jokes, faut arrêter, hein.
Est-ce que je peux réagir arriver à ce stade aussi? Je pourrais réagir. Je voudrais juste aussi dire. Je voudrais juste aussi dire. C'est vrai que putain. Enfin purée. Excusez-moi de mon langage. Purée. C'est vrai qu'à la fin des 4 heures, on se rend pas compte peut-être quand on est auditeur ou quoi. Mais enfin moi personnellement à la fin des 4 heures, putain j'étais fatigué. Enfin genre 4 heures d'épisode comme ça de concentration un peu intense. J'étais content d'aller me coucher. Genre ça fait bon les gars on se quitte. Au revoir. C'est vrai que j'enregistre, je vais me coucher. J'ai pas mis 10 secondes à m'endormir, quoi. C'est vrai que c'était vraiment trop. Et on est tous les trois débutants. Enfin, toi un peu moins, Deka, mais.
Oui, mais en montage, je suis
voilà,
débutant.
C'est une erreur de débutant qu'on a fait de durer aussi longtemps, de digresser autant, de pas traiter les sujets correctement. Ça, c'est clair que, voilà, faut faire l'erreur pour plus la refaire. Enfin, c'est.
Alors, j'ai bien lu ton petit paragraphe Alter Libriste.
Et puis il faut préciser que l'émission dure 4 heures, mais que ça faisait au moins 2 heures qu'on était déjà en train de discuter ensemble.
Ce jour-là, je crois qu'on a commencé, on avait dit 21h, on a fini à plus de 2h du matin. 20h, ouais, on a fini à plus de 2h du matin, donc on a fait plus de 6h. Hein. Donc là, on était bien fatigués. Concernant donc les solutions d'hébergement, j'en reviendrai un petit peu plus tard, mais il y en a quelques-unes qui peut être intéressante, mais pour après. Par contre, quand tu parles de Tux Family, malheureusement c'est pas possible parce que je pense qu'on a besoin de plus de stockage qu'ils nous proposent.
Mais moi je te l'offre le stockage des cas. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas compris comment ça se fait que Patrick il a hébergé sur son site et il a pas gardé mon lien.
Non, parce qu'en fait, quand j'ai regardé sur Tux Family, et je crois que c'est limité à 1 giga en tout.
Oui, mais moi j'ai 100 giga chez moi.
T'as 100 giga? Ouais, ça peut être, mais c'est juste, hein. Quand tu regardes déjà un épisode, ça peut être facilement, moi un épisode brut c'est 300 MO.
Ouais, donc, 300 mégas, tu fais, je sais pas, j'ai pas le calcul là tout de suite, mais tu fais 600-700 épisodes easy. Non
300, ça fait 3 pour 1 giga, ça te fait, ça peut faire 900 épisodes. Ouais, d'ici là, on sera mort.
Ou grand-père.
Ça peut être une solution. Ouais, faudrait que j'étudie un peu plus. Mais t'es sûr que Tux Family, c'est 100 gigas? Parce que moi, j'avais
compris. Non, c'est pas sur Tux Family, c'est sur Infomaniac. Je t'ai dit, je t'avais dit.
Oui, celui que tu m'avais parlé. Ouais. Et on m'avait parlé aussi de PHP.net. Mais je veux pas trop en parler maintenant parce que ça, c'était une de mes geekeries. Par contre, je suis tout à fait d'accord quand tu me parles de téléchargement par PharmaDrop et mon site, c'est vraiment une catastrophe, mais tu prêches un converti. Voilà. après les références aux autres podcasts, ça je veux bien, mais on continuera à le faire parce que je suis un gros auditeur et j'aime bien aussi parler d'autres podcasts, hein.
Moi par exemple j'ai pas connu Captain de l'apéro,
Captain Posix, l'apéro du Captain,
ouais. Voilà, l'apéro du Captain. J'ai jamais écouté parce que je me suis mis au podcast. En fait, vous êtes Nipsource, c'est né juste après.
Non. Alors, tu parles de Parole de Tux, pardon, parce que l'apéro du Captain existe encore. Ah. C'est pas du tout la même chose.
Pardon, ouais, la Parole de Tux, ouais, j'ai pas.
C'est l'entraille des démons.
Parole de Tux, ouais.
Non, ouais, je connais pas. Là, je comprends pas la référence. Plus la joke. Non, mais pour dire que j'avais jamais écouté, parce que j'ai commencé à faire du podcast en fait, avec Nipsource. Donc, tu vois, pour dire. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au monde du podcasting. Et il dit que vous avez fait plein de références ou quoi. Mais genre, moi, je les ai jamais captées et ça m'a jamais dit. Oh, tiens, c'est une référence où j'ai pas compris. Enfin, ça m'a pas choqué plus que ça. À part celle à Blog Linux, ouais, qui sont vraiment nombreuses et qui, il a raison. pour dire c'est vrai que vous êtes pas du tout vous visez deux publics complètement différents et c'est vrai que commencer par alors c'est bien ils vous aident à vous lancer mais Blob Linux au final il faut pas être sur la même plateforme parce que c'est vraiment pas du tout le même public.
C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que là je voudrais rapidement trouver une solution. Alors on va pas revenir sur le problème du son Alter Libris parce que je suis je peux être que vu ce que je t'ai dit avant, les 4 heures de montage, c'est déjà pas mal. Tiens, John, je sais que t'avais répondu par rapport au problème de Steam Machine, si je me trompe pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, John? Je t'ai perdu, je t'entends plus.
Ouais, c'est je vais John lancer quand même. Décale, en fait. C'est toi qui as.
Oui, j'ai répondu. C'est parce qu'en fait, le Steam Machine, bien que ça.
Mais t'as un décalage.
Ouais. C'est la pollution, ça, monsieur.
À Paris, le son, il passe pas aussi bien.
La Steam Machine, c'est vraiment pas. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée, la tête, que la Steam Machine, c'est pas une Debian. c'est une base, mais c'est pas du tout pareil. Je reviendrai tout à l'heure dans mes geekages là où j'ai fait quelques enquêtes, on va dire, sur certains systèmes, sur certains jeux, et c'est vraiment pas du tout pareil. Et pour les joueurs qu'ils essayent par eux-mêmes, voilà, il faut tester pour vraiment comprendre ce que je dis. Il y a vraiment des jeux où enfin on va y revenir un peu tout à l'heure, mais voilà,
on en discutera parce que moi j'ai Steam sur Ubuntu et ça se passe plutôt bien, mis à part les problèmes de carte graphique.
Mais c'est justement ça le problème. C'est que eux ils se basent sur la en partant sur Ubuntu et ils font la Steam Machine. Et franchement, c'est pas la même chose quoi.
Ouais, mais Debian sont beaucoup plus en retard sur leur logiciel, enfin Debian de par sa nature, il est beaucoup plus conservateur et beaucoup plus en retard sur les versions des librairies et tout. Et genre ces dernières années, ça a énormément bougé. Et ils sont vraiment pas à jour, quoi, comparé à ce que tu peux avoir sur Ubuntu ou comparé à ce que tu peux avoir sur d'autres distributions. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire tourner les jeux quand tu maîtrises pas le logiciel qui évolue aussi vite que.
Oui, voilà.
Faudrait
donc,
que tu sois sur du Debian testing.
De dire que parce qu'on peut très bien dire que Ubuntu c'est une variante de Debian.
Oui, bon. Yeah.
c'est une base Debian. Mais derrière, ils rajoutent toute leur stack logiciel à eux, quoi. Et ils sont bien plus en avance que Debian sur leur logiciel, sur leur version de logiciel. Je prends, moi par exemple, dans mes geekages, là, je vais parler du pilote graphique Mesa. Là, il y a la version 13. Quelque chose qui est sortie. Et c'est seulement à partir de la version 13 qu'on a le support des cartes graphiques Radeon, ATI. Voilà, c'est là si je suis sur une Debian, et je l'aurai dans la version 9 ou la version 10 de Debian.
Voilà, mais la Ubuntu, la Steam OS, Steam Machine se base sur Debian et non sur Ubuntu.
On en discutera tout à l'heure dans l'épisode pour voir tes problèmes, pour discuter un peu de tes problèmes.
C'est bien. Ok. Bon bah moi je vais continuer. Donc oui, j'ai par rapport à l'histoire de SuperToxCart, c'est vrai. On peut avoir que 20 concurrents. J'ai réussi à le voir après. J'étais pas allé assez loin dans les menus. Donc Alter Libris, toi je me trompe pas, qui habite sur la côte d'Opale et avec qui j'ai déjà discuté une fois, tu peux me taper sur les doigts. Et enfin oui, pour finir, la triple carmélite est bien une très bonne bière. Je suis content que tu le précises.
Comme c'est une parfaite introduction, là.
Voilà. Et, je pense, voilà. Et alors, comme j'ai dit que j'avais soif, eh ben, Morgan, qu'est-ce que tu bois?
Eh ben, écoute, suite à notre précédente discussion, tu m'as beaucoup donné envie de tester la triple carmélite. Donc je m'en suis acheté une exprès là tout à l'heure avant de venir. Bon, pour la dire la vérité, j'en ai acheté deux, mais comme j'avais soif, la première j'ai pas attendu et je me suis gardé la triple carmélite pour tout de suite. Donc j'ai une triple carmélite qu'on va goûter en live pour voir si elle est aussi bonne que tu le dis. Et j'ai pris une Reims cochon qui est une bière de chez toi, non des Flandres.
Je me demande si c'est pas une belge.
J'ai déjà goûté
si,
celle-là.
Je me suis trompé, bière des Flandres.
Belge, hein.
C'est écrit.
Ouais, c'est une belge. Hein. Ouais.
Eh ben au final, j'ai pas fait gaffe, mais genre 8,5 degrés. Je m'attendais à ce que ça soit dégueulasse, mais pour 8,5 degrés, ça passe bien.
Elle est bonne, hein, la triple carmélite. Voilà. Bon comme on en a déjà parlé, je vais quand même parler de la mienne comme ça, et en même temps, on va écouter un bruit très agréable.
Je fais le même.
Ah mince.
Je fais le même. Merde, ça marche pas.
Ah bah si. Deuxième fois que ça commence. Ah ouais.
J'en ai renversé partout. Mauvais.
Ah ouais, bah j'ai peur d'en mettre sur le clavier. Et alors moi je suis en train.
Je suis avec le chiffon du violoncelle, je vais me faire défoncer par par ma copine. Oh.
Madame Morgane va pas être contente.
Ouais, c'est ça là, là. La demoiselle.
Ouais, elle va pas être très contente. Le chiffon, attention, hein. Touche pas aux instruments. Alors, je suis en train de tester en direct une bière d'abbaye. Alors, c'est des différentes, attention, avec les bières trappistes. Ça, j'en parlerai dans un premier épisode parce que s'il faut une appellation très spécifique pour les bières trappistes, parce que ce sont des moines qui brassent la bière. C'est une bière belge qui s'appelle la Capitale Watou. Alors, elle est pas très forte à comparer à la triple, c'est la triple, hein, que tu disais qu'elle fait 8, Morgan.
Ouais.
Voilà, non, là, celle-là, elle est à 6 degrés. Bah, écoute, on en reparlera un petit peu plus loin. Déjà, c'est une brune, hein. Donc, je suis déjà surpris qu'une brune soit qu'à 6. Mais, première gorgée, c'est pas mauvais, hein. Ah ouais. C'est un peu amer, c'est ce que j'aime bien, moi, dans les brunes. Donc, elle a eu aussi un prix. Alors, je sais que je crois que c'est Morgane qui disait que les prix, fallait pas trop,
Bah, du moins, pour le World Concours, machin, moi, j'y gagne.
Ouais, bah, voilà, je crois qu'elle a gagné à World Concours, machin, en 2010, donc, voilà, elle l'a eu aussi, et genre j'ai mis le lien, et c'est une brasserie que je connaissais pas, mais elle brasse une douzaine de bières, que je pense je continuerai sur ma lancée, et en tout cas, elle est plutôt bonne, même si leur site il est mal fait, parce que bah, c'est censé être en français, et t'as page not found, requested page could not be found.
Bon, déjà, c'est qui marche pas.
si, après ils ont voilà, en bière ils ont la Flax, la Capitale Blonde, la Double, la Pater, la Prior, la Triple, la Le Roi de Noël, la Stout, je connais celle-là, l'Hyperman. Ah bah donc Hyperman, c'est que ça doit être une brasserie d'Ypres, c'est pas très loin de chez moi, c'est une cinquantaine de kilomètres de chez moi ça. Et oui, il y a les bières de table, la Bock et la Prima que je connaissais également. Donc ouais, ils en ont quelques-unes et ils font des sodas, dont le très connu Palma qui est assez connu en Belgique. Donc voilà, c'est au cas où t'arrêtes du mal à digérer ta Capitale Watou, bah tu peux enchaîner sur un soda Palma citron ou Palma de limonade blanche. Mais bon, très bonne bière. Et John, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aurais pas oublié quelque chose, ou tu n'aurais pas oublié de respecter la règle de numéro 1 de l'apéro des papas manchots, John?
On va dire que j'ai préféré mettre en avant la règle primordiale, pas d'alcool pendant la semaine. Non, plus sérieusement, j'ai oublié de faire les courses.
On va dire que c'est une bonne règle, et tu es exempt. C'est pas bien.
Prochain épisode, ça veut dire double ration.
Voilà. Double ration, exactement. Voilà, alors, je vais revenir rapidement sur les deux derniers commentaires, puisque je pense que Z6PO, c'était la même personne sur le blog de John. Ousine, je suis en pleine écoute, 50%, j'ai déjà envie de vous faire un petit retour. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec Alter Libriste. Eh ben, on va pas revenir là-dessus. Il parle également de la même chose concernant le fait que il reste sur sa fin, la dynamique sur A3 est intéressante, il y a des détails qui n'amènent pas de contenu assez pertinent. Bon, bah, c'est pour ça, on va pas trop s'étaler. Je ne bois pas d'alcool. Bah ouais, mais bon, c'est l'apéro des papas manchots, et je pense que de l'autre côté, il y en a un qui boit du Kraken assez régulièrement, et il y en a une qui boit des bières. Et il y en a un qui boit du vin, si je me trompe pas. Donc, voilà, ils en parlent aussi. Bon, c'est vrai que nous, on le dit directement.
Ouais, alors,
ah tiens, Morgane,
je
t'as pris un petit...
Le speech, là,
t'as fait poser une petite question.
Alors, juste, alors, déjà, première chose...
Oui.
J'ai pas envie de répondre genre méchamment ou quoi, mais en gros il dit qu'il est resté sur la fin au niveau du contenu, c'était pas assez intéressant et tout. Alors déjà il y a des podcasts qui s'écoutent pour le contenu, il y a des podcasts qui s'écoutent vraiment pas pour le contenu mais pour l'ambiance. Je prends l'exemple d'un podcast que j'écoute qui s'appelle genre Rivière à détente. Je pense que les mecs il y a des épisodes, les mecs ils ont eu trouvé l'idée de l'épisode pendant le générique, donc tu vois, pour dire la préparation de l'épisode. Mais c'est juste qu'ils sont à écouter, ils sont tellement drôles, ils sont tellement il y a une magie qui se fait que tu les kiffes. Mais moi, ça me rappelle sur Nipsource, une fois, j'avais halluciné. Il y a un mec, il a posté un commentaire sur Nipsource et il disait « Ah, enfin un épisode avec du contenu intéressant, là, gna, gna, gna. » Enfin, genre, toi, tu fais un format qui te plaît, qui est là. Nous, on essaye d'allier un peu le contenu, la discussion, comptoir de bar, comme disait Alter Libriste. T'es pas là forcément pour amener du contenu, pour instruire les gens. C'est pas ton objectif. Donc, moi je trouve, je parle en mon nom, hein, mais je viens pas avec la prétention d'instruire qui que ce soit, puis surtout pas des gens qui ont déjà une sacrée culture Linux, parce que c'est pas le sujet de ce podcast. Après, si on peut apprendre 2-3 choses, c'est cool, hein, je dis pas, mais il faut qu'il y ait un mélange de sympathie et de contenu, quoi. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour la réaction qui disait après 2 heures d'écoute, il reste sur ma faim, j'ai pas assez appris de choses. Sinon après il dit Morgan, tu fais pas ce que j'avais parlé en fait d'OpenStreetMap qui m'avait jamais conduit nulle part. Donc lui il dit Morgan, tu fais partie de l'association OpenStreetMap, j'ai été très surpris de ta remarque négative sur OSM AMD. Alors déjà, hein, je ne fais pas partie de l'association OpenStreetMap, je suis parti d'une autre asso qui est OpenFoodFact, qui est genre du big data sur l'alimentaire. Et ensuite, ta remarque négative sur OSM AMD. Alors je suppose qu'il doit vouloir dire OpenStreetMap Android. Alors je ne parlais pas d'OpenStreetMap Android pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sous Android, je suis sous Ubuntu Touch, et sous Ubuntu Touch il y a un logiciel qui s'appelle Unav, et qui utilise les cartes OpenStreetMap, et peut-être pas aussi bien faite que l'application d'Android, mais voilà, elle utilise les maps OpenStreetMap. Et moi, OpenStreetMap, il m'a jamais mené nulle part. Peut-être que toi, t'habites à Paris ou dans une grande ville et que les gens contribuent. Moi, j'habite dans la montagne et je te garantis que quand il y a un endroit que je connais pas où c'est et que je veux y aller au GPS, lui non plus ne sait pas où c'est. Donc voilà.
Je peux pas revenir là-dessus parce que bon, moi, je suis peut-être celui qui utilise le plus de GPS.
Oui, ça dépend de où t'es situé, OpenStreetMap, quoi.
Je vais revenir sur un point et je pense que j'en ai déjà parlé. Actuellement, il n'y a pas d'équivalent et il y aura
à Google Maps. Ouais.
Non, même mieux que ça, Waze, malheureusement. Malheureusement, il y aura.
Ah, mais Waze, c'est Google Maps. Ils utilisent les deux.
Ouais, c'est ça. C'est... Non, même pas. Attention. Ah, non. Tu serais surpris parce que moi, j'utilise les deux. Et par exemple, moi, j'habite dans une nouvelle maison. C'est un nouveau lotissement. Bien, sur Maps, le lotissement n'apparaît pas. Sur Waze, il apparaît.
Ah ouais?
Eh oui.
Ah, moi, je pensais que c'était la même base de données, c'est Google.
C'est deux choses Non, la cartographie est différente. Et ce qui est amusant, c'est que des fois, quand je ne trouve pas un endroit sur Waze, je le trouve sur Maps. Oui. Après, dans Waze, comme John dit, à partir d'un certain niveau, tu peux cartographier et modifier la cartographie. Et c'est validé.
Moi, je pensais que vu que c'était la même boîte sous-jacente, ils auraient au moins eu l'intelligence de partager les données entre les services, quoi.
Ah non.
Les différents services de Google.
Non. Et c'est triste à dire, mais actuellement, et moi je rêve quelque chose qui soit aussi efficace que ça, mais libre, parce que je peux te dire que je l'utilise, mais vraiment très très régulièrement, et je crois que j'arrive pas loin du top 3% national. Donc, mais actuellement, il y a que ça. Il n'y a pas autre chose qui me permet de, d'une part, modifier mon itinéraire quand c'est les travaux, de me donner les infos concernant des problèmes sur le trafic.
En fait, le prochain combat du libre, pour moi, je pense, c'est plus le logiciel, parce que ce combat, en quelque sorte, il est gagné quand tu vois que même Microsoft s'aligne. Mais c'est la donnée. Il faut la donner. Et voilà. Pour ça, bah, malheureusement, le libre, elle l'avait déjà expliqué, la meuf qui faisait du big data, là, dans Nipsource.
Héloïse.
Héloïse, ouais. Elle l'avait déjà expliqué. Et malheureusement, le libre, il a un schéma qui fait que c'est difficile. Et en fait, tu regardes toutes les grandes entreprises actuelles, ça soit du Uber, du Google Maps, du... Enfin, je n'ai pas d'autres idées en tête, mais en gros, toutes les grosses entreprises, elles possèdent plus les lieux, elles possèdent plus le logiciel, elles possèdent la donnée. C'est la donnée qui est importante maintenant. Et malheureusement, c'est difficile. Alors, physiquement, il y a des initiatives OpenStreetMap, tu peux mettre des, à côté de chez toi. Moi, je l'ai fait, hein, j'étais sur OpenStreetMap, j'ai mis mon quartier, j'ai mis deux, trois trucs que je connaissais, mais tu peux pas faire la France entière, quoi. Mmh. Et c'est pas, quand c'est associatif pour de la donnée, c'est chaud, il y a, c'est chaud de convertir des gens, enfin, ah, d'avoir une population.
Faut que la France entière le fasse.
Faut que la France entière le fasse et voilà, c'est chaud. Donc les gens contribuent sans le savoir quand c'est des logiciels privateurs parce qu'ils collectent les données. Mmh. Mais de là à le faire par toi-même, la plupart des gens, ils sont...
Ouais, c'est clair. Mais bon, malheureusement, ça, je suis assez d'accord avec vous. Bon, le petit bip bip, c'est pas la fin de mon électrocardiogramme, hein, rassurez-vous. C'est juste mon lave-vaisselle qui est en train de faire son cycle, puisque oui, pour une fois, alors il y en avait certains qui ont enregistré les podcasts dans la cuisine. Moi, c'est dans mon séjour qui est juste à côté de la cuisine. Donc, voilà, c'est pour ça que si vous entendez un petit bip bip, c'est lui. Donc après, d'ailleurs, je vais bouger si ça vous... Voilà,
dans
mes...
Et d'autres dans, d'autres des, dans caves. Des caves.
Exactement, mais... mais bon, après, de toute façon, je vais bouger le PC, et puis en même temps, je rangerai la vaisselle, hein, si ça vous dérange pas, comme ça, au moins, je joindrai l'utile à l'agréable. Non, je plaisante, bien sûr. Mais je vais surtout revenir sur les deux derniers commentaires de Z6PO qui ont été postés sur le blog de John Gecko. À propos d'Ubuntu, perso, je suis un peu vieux, j'ai préféré Xubuntu, pas de souci avec. J'ai abandonné Mint à l'époque car ils ont un décalage par rapport aux versions d'Ubuntu. J'avais des problèmes d'instabilité que je n'avais pas avec Ubuntu. J'ai pas d'avis, je sais pas si vous en avez.
Non, c'est les goûts, les couleurs.
Moi, ouais, franchement,
Ubuntu,
là-dessus.
Ce que je lui reproche, Xubuntu, ce que je lui reproche, c'est que par défaut, y a rien, quoi. T'as aucun, enfin, les raccourcis, ils sont, t'as même pas Ctrl+Alt+T pour ouvrir ton terminal.
Bah, écoute, moi, je suis sur Ubuntu et j'ai un décalage d'à peu près 6 secondes, donc
Pas mal.
Ça, c'est le gestionnaire de paquets, ça, tu vois,
il a de l'humour, hein, ce soir, tu vois.
Il parle peu, mais il parle bien. Deux inconnus pour John qui...
je suis chaud bouillant.
Deux inconnus pour John qui posaient la question du comment programmer. À l'époque, dans les temps anciens, on apprenait sur du Pascal. Ce langage avait l'avantage d'être proche de l'algorithme sous Linux, t'as Lazarus qui reprend le Pascal orienté objet. Oui, bah si tu le dis, moi je... Voilà, donc tout à l'heure on disait que... Bah, on était peut-être quelquefois trop geeky, mais moi, je n'ai travaille pas du tout dans le milieu informatique. Je travaille dans l'ADSL. Donc, voilà. Moi, me parler de Pascal, de comment, qu'est-ce qu'ils veulent mettre d'ailleurs dans les collèges l'année prochaine, que c'est un truc de programmation aussi. C'est pas Quant? Non, pas Quant, je sais plus.
Non, Quant, c'est un moteur de recherche.
Je sais plus. Scala?
Non, ça m'étonnerait, Scala. Non. À mon avis, ça va être à la fac. Aux débutants, ils apprennent l'ADA parce que c'est un langage qui est proche de
LaTeX,
qui est proche de l'algorithmie. Mais je pense qu'ils vont apprendre les trucs genre Scratch ou un truc comme ça, qui est en fait un truc où tu t'amuses un peu, tu programmes en t'amusant. T'apprends les bases de l'algorithmie en faisant déplacer des robots, des trucs comme ça. Et c'est vachement intuitif pour les gars.
Ça pourrait être pour moi aussi, pour apprendre la ligne de commande, ça peut être pas mal.
Bon, pour répondre à deux inconnus, je crois, je sais pas si c'est son pseudo, mais en gros, ouais, le Pascal, ouais, Lazarus sur Linux, ça fait du Pascal, mais c'est un peu mort, quoi. Enfin, je sais qu'il y a
mon...
D'accord. Je sais qu'il y a mon patron, au moment, il était, enfin, mon patron de l'entreprise dans laquelle je bosse, et le patron était venu avec un des clients qui se posait la question de refaire une application, puis c'était en Pascal, et clairement, bah, Pascal, ça vit encore, enfin, il y a encore des mises à jour ou quoi, mais, Pascal, Delphi, il n'y a plus de nouveaux, enfin, il n'y a plus de développeurs dessus, c'est mort, enfin, c'est un langage qui meurt, quoi, et il est mort, et clairement, ils vont reprendre leur application, ils vont la refaire en Python. Donc, comme il dit, hein, à son époque, dans les temps anciens. Maintenant, il n'y a plus la compétence et clairement, elle coûte trop cher par rapport aux avantages du langage.
Ok, ok. On va enchaîner sur les geekages. Alors, qui commence? Qui veut commencer plutôt?
Allez-y, moi j'ai beaucoup parlé là.
Bon.
Putain, laisse-moi prendre la toilette.
Bah, John, on l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu veux commencer ou pas?
Oui, par contre, ce qui me fait peur, c'est par rapport au décalage, en fait.
Bah c'est pas grave, vas-y te lance-toi, on attendra qu'on ait un blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des blancs. On a eu des problèmes de son, on peut avoir des problèmes de blanc. Les blancs ça peut se couper, les sons qui saturent ça ne peut pas. Donc je t'écoute sur tes problèmes. Bah déjà t'avais d'ailleurs on a failli en avoir un tout à l'heure de problème. Et t'as trouvé la solution. C'est on a failli avoir le même problème que dans l'épisode 3 au niveau du son. Donc je te laisse enchaîner là-dessus.
Et oui, alors comme je disais, on avait eu un problème, j'ai eu un problème de son lors du dernier épisode, et j'ai expliqué que j'avais du mal à en trouver la cause, quoi. Je comprenais pas vraiment d'où ça venait. Je pensais que c'était un problème du micro en lui-même, etc. Alors il y a deux problèmes en fait en un. Un qui est plus simple à comprendre, c'est que je n'ai pas la petite mousse l'anti-pop, je crois que ça s'appelle. Deka, tu peux me corriger si je me trompe.
La bonnette.
Qui permet de filtrer, enfin, entre guillemets, la bonnette, qui permet de filtrer les bruits parasites. Mais en fait, le problème venait Alza Mixer, en fait. En fait, dans les paramètres d'Ubuntu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis sous la dernière LTS en date, donc la 16.04, l'icône avec le haut-parleur qui est fait, je peux régler juste le volume du micro, mais c'est le volume en dur. Enfin, le volume, quoi, du micro. La différence est... pour essayer, quand on essayait de s'entendre, et etc., et que mon micro était, on peut le dire, dégueulasse, c'était pas au niveau du réglage sur Ubuntu, l'interface graphique, en fait, ce que je disais, l'icône. Le problème venait de... En fait, j'ai comparé avec mon autre ordinateur, et j'ai vu que c'était les mêmes, j'avais les mêmes réglages, et que j'avais pas ce problème de crépitement avec l'autre. Et en farfouillant, je me suis rappelé de la commande en utilisant le terminal Alza Mixer. Et j'ai été voir dedans, et il s'avère que dans Alza Mixer, je vais le relancer pour pas dire de bêtises. Voilà, il est lancé. Dans les paramètres de ma carte son, en fait, j'avais le micro classique, le niveau de micro. Donc celui qu'on peut voir aussi dans l'icône de son là d'Ubuntu, celui-là il était bon. C'était le deuxième qui est juste à côté, qui est le boost du micro en clair. Le gain en décibels, enfin monter le micro. Et celui-ci était au maximum, donc à 100/100, ce qui faisait que mon micro était tout simplement, j'avais un son de merde quoi. Et là, je l'ai baissé. Normalement, on doit bien m'entendre. Sauf que j'ai un décalage de 6 secondes, donc ça va être compliqué. Mais là, je suis à 22/22 pour le boost du micro. Et là, c'est nickel.
Ça va être bien pour le montage.
Sans mettre la petite bonnette. J'ai plus de problème de grésillement, etc. Donc, je suis bien content. J'ai trouvé ma solution.
Et c'est quoi le PCM? Tu l'as aussi, ça, John? Sur Alza Mixer?
Oui. Oui, oui, et je sais pas du tout ce que c'est. J'ai loopback, j'ai les channels, c'est j'ai l'automute.
Parce que moi, il y a
j'ai PCM et moi aussi, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas vraiment cherché en fait. Oui, je l'ai laissé d'origine quoi.
Tu l'as laissé dans le
La seule chose que j'ai diminué, c'est le boost.
Parce que moi, il est dans le rouge aussi, moi, donc.
C'est vraiment la seule chose que j'ai modifiée pour. Et je me suis aperçu que le son était meilleur, quoi.
Alors pourquoi il s'est enclenché? Parce que moi, il n'était pas enclenché, ouais.
Voilà. Donc en fait, après, comme j'ai une entrée audio, voilà, ou puis même à d'autres, s'ils veulent essayer, qu'ils ont un bruit dégueulasse, pensez à vérifier ça. Oui, ce que je disais, en fait, c'est que j'ai une tour, là. Le PC lequel j'enregistre, c'est une tour. Et donc, du coup, j'ai les prises arrière et les prises de devant. En façade. Et donc du coup, quand je changeais de devant ou de l'arrière de la façade, forcément le son, vu qu'il n'était pas réglé pareil au niveau du boost, oui, ça changeait un petit peu le volume.
Eh ben écoute, ça nous a servi de leçon.
Donc voilà, problème réglé. Donc il suffit de pour les auditeurs qui nous écoutent, il suffit de lancer Alza Mixer dans un terminal et d'ensuite de choisir sa carte son. avec F6 normalement. En tout cas, moi, pour moi, on me propose de choisir la carte avec la touche F6. Je choisis ma carte et ensuite on se déplace avec les flèches directionnelles du clavier. Et l'option qu'on choisit, c'est celle qui sera en rouge. Et après, il suffit de monter ou descendre toujours avec les flèches du clavier.
C'est des Italiens qui ont fait ce truc-là, c'est...
Oui, je sais pas.
Vert blanc.
Mais en tout cas, quand c'est tout dans le rouge pour le micro, c'est pas bon.
Oh, il fallait la faire. C'est facile.
Ah, ça, je... Mais bon, j'ai réglé mon problème.
Je confirme vraiment.
Voilà.
Je t'aurais maudit jour-là. Je t'aurais maudit.
Eh oui, pour information, j'ai envoyé des copies d'écran parce que peut-être que je m'exprime pas tout à fait clairement pour les gens qui écoutent. Donc j'avais envoyé les captures d'écran de ce que j'ai fait pour solutionner ce problème. Je les ai envoyées à Patrick de Blog Linux. Donc peut-être qu'il saura me donner des termes plus compréhensibles pour tout le monde de l'erreur qui a été faite en fait. Donc voilà.
On a échangé avec John et Patrick à ce sujet et il est en train de faire des tutos concernant les problèmes de son qu'on peut avoir notamment sur Audacity, les réglages qu'on peut faire par défaut, réduire des bruits parasites, égaliser les micros, le son des pistes. Et ça va déjà, je pense, pas mal nous aider, parce que moi j'ai suivi aussi des tutos. John m'a envoyé des liens aussi vers des vidéos YouTube à ce sujet. Donc là, on va essayer vraiment d'améliorer la qualité sonore des épisodes. Et là, prochainement, en plus de la petite clé extra, il devrait avoir un nouveau micro qui devrait arriver aussi chez moi. Donc on va espérer avoir une meilleure qualité de son. Parce que bon, la dernière fois quand même, il fallait reconnaître que c'était le dernier arrivé qui avait le meilleur son.
Ouais, mais bon, il enregistre déjà aussi, et puis...
À moins qu'il y ait un microclimat autour de l'Isère qui fait que le son soit meilleur.
De la Savoie.
Ah, c'est bien pratique.
Non, c'est que j'ai un petit...
Il y a que moi qui
n'ai
pas de micro, en fait, pour l'instant.
C'est peut-être pour ça le décalage. C'est ouais. Toi le coupable.
Ouais, mais bon, c'est du Bang et Olufsen, hein, donc ils ont peut-être travaillé là-dessus. Ouais, je suis différent.
T'enregistres avec le micro du PC, purée. Bon, ça encore, ça reste correct. Hein. Mais en vrai, par contre, ce qu'il faudrait bosser, c'est essayer de bosser.
Ah oui, non, mais sans déconner.
Genre le Mumble ou quoi, parce que quand j'ai réécouté l'épisode, c'était plein de bruits parasites que chacun peut faire de son côté sur le micro ou quoi. Il faudrait pouvoir se mettre en mute quand on parle pas et démuter quand on a envie de parler et pour garder les pistes propres, quoi. Ça faudrait. Mais Mumble, faut qu'on arrive à marcher dessus, enfin, à tous aller dessus, quoi. Parce que on a tous des problèmes.
Non. De toute façon, là, il y a peut-être autre chose qu'on va discuter justement dans les geekeries. Donc, on va pas. Ne spoil pas, on va peut-être en parler dans les geekeries. Dans mes geekeries. Alors, John, est-ce que tu veux parler de ta carte Wi-Fi?
Donc, je suis passé à la nouvelle génération, n'est-ce pas? Hein? Je suis passé en 5 GHz. En Wi-Fi, donc j'ai installé une carte Wi-Fi en PCI Express Asus. Elle fonctionne superbement bien. J'ai plus ces problèmes de perte de paquets incessants et tout. Donc voilà, elle fonctionne. Malheureusement, parce que j'ai regardé sur la doc d'Ubuntu et le modèle que j'ai exactement n'est pas référencé, mais comme elle est assez récente, ça se comprend. Donc juste pour donner l'information, ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être acheter une carte compatible 5 GHz reconnue, donc la Asus PCE AC56, elle est reconnue. Le seul petit défaut, enfin la petite ombre au tableau, on va dire, c'est qu'il te faut le réseau pour installer les pilotes propriétaires actuellement. Après, peut-être que dans le futur, ça va être il y aura des pilotes libres, mais
attends, je comprends pas. C'est d'ailleurs que tu peux pas la récupérer en filet.
Voilà. En fait, quand tu l'installes,
tu dois avoir une connexion internet pour télécharger le bloc propriétaire. C'est normal. Ça. Par contre, moi, j'ai une question pour vous, les gars, un peu béotienne peut-être. En gros. Moi je crois que c'est du 3, je peux pas. Mais en gros, moi j'ai ma bonne, je crois que je suis chez Bouygues Telecom.
5
GHz.
Ils me fournissent une bande Wi-Fi et puis une bande, c'est écrit après
Non, c'est 2 ou 5.
3 ou 5.
5.
Et en fait, c'est pas trop. Et en fait, ça, déjà, un, ça change quoi? Et deux, je croyais que c'était interdit d'être dans des bornes. C'était, je croyais que c'était interdit d'être dans des hautes fréquences.
Non, non,
je
crois
que c'était,
parce que non, les fréquences radio, c'est des mégahertz.
Est-ce que vous pouvez éclairer mes lanternes?
Et je crois que la télé, c'est pareil, c'est du mégahertz. Donc,
Là,
t'es sur des fréquences gigahertz. Alors, a priori, la 5 gigahertz, c'est un peu plus courte. En niveau, émission, quand tu regardes, d'ailleurs, si tu regardes sur un truc tout bête, hein, quand tu te mets sur ta box classique, si t'es sur ta V-box classique, si tu regardes sur ton truc Wi-Fi, tu peux avoir à peu près, 10 à 13% de perte par rapport à la même distance, hein, je parle. Tu regardes dans tes Wi-Fi dispo, tu regardes ta B-box et celle qui est en 5 GHz, tu vois, il y a une dizaine de pourcents de moins.
Voilà.
Mais par contre, ça reçoit beaucoup mieux. C'est pour
c'est ça que
John
je voulais en venir justement
sur une 5 GHz.
Mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, tu sais, si les fréquences elles sont plus hautes, elles patatent plus. Comment ça se fait que ça s'estompe plus? Attends, je repose ma question différemment.
Ouais.
Si la fréquence elle est plus haute, tu vois, genre il y a plus d'ondes d'aller-retour de Londres en une seconde, enfin il y a une plus grande fréquence, quoi. Comment ça se fait que t'es, tu sais, pour moi je me dis, vu que t'as beaucoup de fréquences, bah au pire avec le temps elles vont diminuer, elles vont ralentir, mais pour moi ça ira plus loin que du 2 GHz normal. Le 5 GHz pour moi ils sont censés avoir plus de fois.
A priori non, c'est moins. Non, parce que justement, je suis en train de regarder en direct. Moi, j'ai une fréquence normale et une 5 GHz. Je suis à 85% sur ma fréquence normale et 66%
voilà.
sur ma 5 GHz.
Et genre, ça traverse mieux les murs ou pas?
Mais
du tout,
beaucoup
non
plus. Mais c'est beaucoup plus stable. Ça traverse moins bien les murs.
Ça traverse moins bien en plus. Putain, mais en fait, il y a beaucoup de désavantages, quoi. Voilà.
Mais c'est une fréquence. En fait, c'est pour être plus stable.
Voilà.
C'est pour être plus stable. T'as moins de pertes.
Et l'avantage quand t'es en zone très peuplée comme moi, où j'ai beaucoup de wifi, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui utilise la 5 GHz.
Moins de perte de paquets, mais par contre, si tu veux te mettre loin, faut mieux te mettre sur une fréquence normale.
Ok, d'accord. Bah, merci d'avoir éclairé mes lanternes, les gars.
Voilà,
d'accord.
Dû au, parce que c'est le même canot, quoi.
Ah oui, c'est vrai qu'on avait, je sais pas si on l'avait dit dans l'épisode, on l'avait dit en off, mais tu m'avais expliqué que quand t'es plusieurs personnes sur du wifi, au même endroit, bah au final t'as...
Pour faire simple, on peut refaire le raccourci, même si c'est pas tout à fait pareil avec la radio qu'on écoute. Quand on se rapproche des frontières, on a des interférences.
Ok, et merci bien. Bah, DK, fais-nous.
Ouais et non, parce que c'est une question d'émetteur après sur la radio. Il y a une question d'émetteur
oui,
aussi,
mais
d'éléments naturels. Mais bon, après, en radio, il y a un truc qui est amusant à faire, c'est que si tu as des problèmes de... Ah vas-y, je te laisse finir, je t'explique.
Non,
après.
Mais c'est tout. C'est juste que en fait, quand tu te rapproches de la frontière et si t'écoutes certaines radios, que t'écoutes la radio, il y a certaines stations qui sont sur la même fréquence. On va dire par exemple 96 FM. Et ben, quand tu passes certaines frontières qu'ils utilisent aussi, tu peux entendre à certaines positions, tu peux entendre les deux simultanément.
Et moi, j'allais rebondir sur un truc qui est un peu dans le même genre. C'est que si par exemple tu veux t'amuser à savoir s'il y a un perturbateur sur une connexion internet, notamment en ADSL, tu peux t'amuser à mettre les radios sur AM, donc les ondes courtes. Si tu as du mal à capter la radio, alors je dis pas que le son est pourri en AM, mais si t'entends des grésillements, c'est qu'il y a un perturbateur dans le secteur où tu habites. Ouais, mais rien n'empêche que des autoradios qui continuent
AM,
à avoir l'AM, donc tu peux t'amuser à le mettre, et puis de toute façon t'as pas besoin d'avoir une fréquence, c'est juste pour savoir s'il y a un perturbateur.
Et aussi, deuxième question, genre ça arrive souvent, je vois nous les bâtiments qui construisent, les nouveaux bâtiments qui construisent, parce qu'en fait là où j'habite, genre il y a une université, puis tout autour il y a plein d'entreprises qui s'installent autour de l'université pour recruter facilement, et donc tous les nouveaux bâtiments qui construisent, genre il y a des structures métalliques ou quoi, et en fait ça s'avère que ça fait des immenses cages de Faraday, et du coup tu captes jamais le téléphone dedans, et... Enfin, t'as jamais de réseau mobile, et ça, c'est valable, genre avec les ondes radio, avec le Wi-Fi ou quoi. Est-ce que c'est un phénomène que tu connais ou...
Moi, j'ai jamais eu de retour là-dessus, mais non,
je me dis peut-être que dans le cadre de
ADSL,
ça va être un phénomène
perturbateur qui peut avoir sur de l'environnemental, c'est du rayonnement. C'est pas forcément un lieu à... Bah si, ça peut avoir un lieu, mais moi, c'est plus du rayonnement magnétique par rapport à du câblage électrique. ou un appareil électrique dans certains environnements. Voilà, ah, ça, ça ouais. peut...
Parce que ça provoque
et
des champs magnétiques.
Plus souvent qu'on le croit, et plus souvent chez des sur des installations de particuliers que sur des lignes téléphoniques en elles-mêmes.
Ça, c'est la beauté de l'électricité. Moi, ça m'a toujours fasciné, parce que j'ai étudié l'électricité, en fait, à l'école. L'électricité, c'est une énergie qui a le pouvoir de créer de l'énergie. En fait, avec de l'électricité, ton électricité va créer des champs magnétiques. Le champ magnétique, ça va créer l'électricité, qui recrée le champ magnétique, qui recrée l'électricité, et ça en boucle, comme ça. Ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé très puissant l'énergie magnétique, parce qu'en fait, l'électricité, c'est du magnétisme. Mais j'ai toujours trouvé ça.
Et après, si tu veux savoir s'il y a un perturbateur, pour revenir à ce que tu disais, dans un logement ou dans un immeuble, tu peux tester avec différents appareils, et si tu vois que t'as tes fréquences qui sont perturbées et que t'as une courbe qui n'est pas stable, c'est qu'il y a un perturbateur dans l'endroit.
Et les perturbateurs, c'est genre quoi?
Ou moi avec ma claquette.
Tout ce qui est électrique.
C'est toujours de source électrique.
Toujours de source électrique. Ou ça peut être, ça peut être aussi tout ce qui est, on a du câblage aussi, ça peut être un câble parasite, un câble coaxial.
Et genre, est-ce que la fibre, c'est sensible à ce genre de choses? Tu sais, la lumière?
Bah non.
Non?
Bah non, okay. C'est pas du cuivre. Du cuivre qui rayonne sur du cuivre, là tu rayonnes sur un câble plastique, tu peux pas rayonner. Mmh. La seule chose que tu peux avoir sur une fibre, c'est que si t'as une impureté dessus, tu peux avoir des pertes de...
En verre.
Comment? Une fibre en verre?
Pas du pla...
Non, tu peux avoir une impureté. Une impureté, mais c'est pas, c'est, ça, ça après, ça se récupère vite, hein. Soit t'as rien, ou soit t'as des pertes intermittentes. Mais ça se récupère vite, ça.
Ok. On passe au geekage, je crois que c'est le risque. Ouais. Je vois qu'il reste un quart d'heure avant la deadline. Encore beaucoup de choses à dire.
Ouais. On est toujours, ouais, bah, on a fait que celle de John, hein. Donc, et encore, il voulait parler de jeux sur Ubuntu.
Ouais, et on avait prévu de discuter avec les 6 secondes de décalage, ça va faire ping-pong.
On va le laisser parler, et et on enchaînera après sur tes geekages.
Non, sur les tiens, ça me laissera le temps d'aller au
D'accord. Alors, je vais faire un petit retour sur les jeux, je vais les préciser, parce que c'est vrai que c'est bien de cracher dans la soupe de Steam, mais si je précise pas les jeux en question et les problèmes qu'ils ont, c'est assez facile. Voilà. Alors, il y a le premier jeu, Flight of the Paladin. Alors, lui, c'est le plus marrant. Il est censé tourner exécutable manquant. C'est-à-dire que je cherche. Alors, j'ai fait tout ce que Steam conseille. Vérifier le cache jeu, la totale. Tout ce qui est conseillé par Steam. Avant de cracher, je l'ai fait. Et c'est valable pour tous les autres jeux.
Hein. Quand tu dis
j'ai vérifié, j'ai fait ce qu'il y avait à faire.
John Gecko, quand tu dis exécutable
alors,
manquant,
ensuite,
ça veut dire que t'as pas réussi à trouver comment
World
lancer
Wars.
Le jeu.
Non, c'est ce que lui me dit, exécutable manquant. Il est installé, il est dans ma bibliothèque. Il veut pas me le lancer. Il me dit qu'il y a pas d'installable. Et quand je vais regarder dans le dossier de Steam, effectivement, il l'a pas téléchargé. Il est vide le dossier. Il y a juste le nom dessus. Et voilà.
Alors là, ça c'est par contre pour le coup, ça c'est un problème Steam, parce que par exemple moi je prends l'exemple de Civilization. Une fois, en fait, j'avais plus de connexion internet chez moi pour je ne sais plus quelle raison, et j'avais Steam, il est installé en local, et en fait le problème de Steam c'est que si t'as pas internet, tu peux pas lancer le jeu. Enfin, tu peux démarrer Steam en mode offline, mais là il voulait absolument que je fasse une mise à jour, et comme j'avais pas internet, bah ça plantait. Et en fait, j'ai été dans les fichiers locaux, dans .steam machin, j'ai été dans les fichiers cache de Steam, et j'ai pu lancer le jeu à la main. Donc normalement, le jeu, même si Steam est pas capable de le lancer, t'as toujours un petit moyen de le lancer à la main, à la ligne de commande, quoi. Et donc là, si toi t'as même lui, enfin, si t'as il a même pas réussi à le télécharger, il y a rien dans les fichiers de Steam. Dans ce cas-là, ça, ouais, c'est un gros problème
voilà.
Du client Steam. Mais je crois savoir que récemment, pas plus tard que il y a une semaine, il y a eu une grosse mise à jour Steam.
Non, mais ça change rien. Tout ce que je dis là, je l'ai vérifié, c'était le 3 février à 18h15. J'ai noté, hein. Le dossier est vide pour ce jeu là et pour les autres, donc à chaque fois que je vais dire exécutable manquant, c'est pareil pour tous, hein. Les dossiers sont vides. World Wars 2, il fonctionne, mais lui c'est via Wine, c'est pas un natif, on va dire. Donc il te l'installe Wine, avec tous les problèmes que ça engendre, et ils te le disent, voilà, ils te précisent pas que c'est via Vine. Ensuite, journée to the center of the, enfin, la journée au centre de la Terre.
Il y a beaucoup de jeux comme ça.
Exécutable manquant lui aussi. Et là, on va en finir par le plus drôle. D'ailleurs, dans les notes, c'est ce que j'ai marqué. The District, encore plus lol. Alors, The District, il n'apparaît pas dans les jeux Linux, SteamOS, plus SteamOS. Pourtant, il est compatible Linux, et j'ai noté ce qu'il fallait. Donc, il faut le matériel minimum requis. Un Intel Core 2 du Quad, 2 GHz ou plus haut, la mémoire vive 2 Go de mémoire, et en graphique de l'NVIDIA, de l'AMD ou de l'Intel HD graphique, avec l'OpenGL support, et 1 giga de mémoire graphique, quoi, ou mieux.
Oh, c'est rien de transcendant. Hein.
Voilà, ma carte graphique, la HD, la carte intégrée à ma carte mère, elle fait 2 giga via les commandes LCPI, je crois. Enfin bref, pour lister ce que t'as comme carte, je sais que j'ai 2 giga. Donc 2048 MB. J'ai 8 Go de RAM et j'ai un AMD A7 A4 700, je sais plus combien. Donc c'est pas un Intel Core Duo. Voilà. Et le jeu, il n'est même pas dans la bibliothèque des jeux Steam. Il te le met dans les jeux qui regroupent avec les jeux Windows. Donc les jeux. Et j'ai donc suite aux commentaires qui disaient oui, la branche.
Si ton jeu, moi mes jeux Steam, ils vont toujours dans Steam. Donc là, à mon avis, c'est que soit lui, quand il t'a téléchargé, il a dû télécharger une version Windows ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, moi, les jeux, déjà, si quand je lance depuis un client SteamOS, donc pas que j'achète depuis le web ou pas que j'achète depuis ailleurs, enfin vraiment, j'achète toujours depuis mon client Steam qui est sur ma machine. Lui, je peux pas. Enfin, je peux acheter de jeux, mais en gros, s'il n'y a pas SteamOS de marqué, je peux pas. Je peux rien faire dessus. Enfin, je vérifie ce que je dis là. Je lance Steam. Ah, mais c'est, s'il est marqué SteamOS, il est censé au moins te le mettre dans The District, simplement.
Et ça, il était marqué SteamOS. Regarde dans la partie jeu.
Alors évidemment, moi le con, il veut.
Tu as jeu et SteamOS plus Linux. Oui, c'est ça.
Enfin ouais. Ouais, moi j'ai pas expérimenté autant de problèmes que toi. Hein. Pourtant, je suis sur Ubuntu aussi. Par contre, c'est compliqué pour faire une recherche sur leurs clients. Hein. C'est vraiment pas user friendly encore. Hein, The District.
Tu vois?
Ah mais il vaut moins d'un euro ouais. Déjà, alors ça a l'air de changer.
Ah mais John, c'est
n'importe quoi.
Ça dans la poche, je le savais pas.
Et il a des griffes sur les, il a les dents qui rongent le parquet.
Voilà. John, il a un oursin sur chaque claquette.
Ouais, mais c'est un euro quand même.
Non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi.
Non, c'est que le jeu, le jeu il me plaît.
Effectivement, il est marqué.
Le jeu il me plaît. Il est à moins d'un euro, mais voilà, c'est le principe.
Ah mais là c'est le constructeur, c'est pas. Oui, enfin remarque,
c'est pour ça qu'ils ont éclaté.
Que
non mais plus sérieusement, c'est pas question de prix, t'annonces.
Mais vu les
c'est voilà le truc qui.
C'est ton exécutable.
Voilà. Il n'est pas dans ma bibliothèque Steam. Il me le met dans les jeux autres.
Je regarde les commentaires et genre sans parler des gens sur SteamOS, mais tout le monde dit que le jeu est pourri. Donc là c'est le jeu. Là t'aurais regardé les commentaires avant de regarder d'acheter le jeu, tout le monde te dit. Achetez-le pas, il y a que des problèmes. Bon,
après,
ouais, je sais pas quoi dire, mais j'ai été voir The District. J'affiche la liste des commentaires. J'ai pas encore vu un seul pouce vert. Hein.
Ouais, mais non, mais Morgan. Après, que John, il veut ou non choisir un jeu qui a des mauvais commentaires, c'est pas la question. C'est que si on dit que dès le départ, il est censé être compatible, il doit l'être.
Oui, mais c'est le constructeur de jeu qui a annoncé ça. Mais moi, je vois genre les gens là, tous ceux qui parlent, ils sont pas que sur Linux. Et tous, ils te disent, n'achète pas le jeu, j'ai que des problèmes, il marche pas, j'ai des gros problèmes d'interface, machin. Apparemment, déjà à la base, ce jeu est codé avec les pieds.
Ouais. Bon, si le jeu il est codé avec les pieds, c'est comme le jeu que t'avais joué en 7 FPS, John, avec les Amazon là.
Non. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas moi. Non. Mais c'est pas ça. C'est que le truc, il te le met. Après, comme justement, il était à 2 euros, j'avais ça dans le porte-monnaie Steam, j'ai dit vas-y. Après, ça dépend des coûts et des couleurs. Je me suis dit, c'est un truc Steam, il est compatible Steam, il demande pas beaucoup de mémoire parce que 2 gigas, c'est rien. Mmh. En graphique et tout, 1024, c'est bon. Le truc, t'es censé l'installer, il veut pas te l'installer. Voilà. Enfin, c'est, j'ai trouvé ça le plus marrant. Et donc, ce que je disais, c'est que par rapport à SteamOS, donc SteamOS, c'est pas la Debian. Ah oui, mais non, justement. Le Girl Amazon, là, eh ben, figure-toi qu'il fonctionne très bien sur l'AMD. Sur mon PC de bureau, il fonctionne très bien. Donc, c'était bien ma config dans ce cas-là.
Ah non, j'ai pas SteamOS. J'ai Steam client pour Linux et je vois dernière mise à jour, 8 jours. Il y a 8 jours en arrière.
D'accord.
8 jours en arrière, je vois la dernière mise à jour.
Mais moi, ce qui me pose problème, tu vois, c'est qu'il y a plein de trucs. L'exécutable manquant, il y en a plein d'autres. Et justement, pour faire face, la dernière mise à jour sur le GitHub de SteamOS, donc Steam Machine, je prends les Linuxiens pour des ânes. Ça a été la dernière mise à jour à date du 2 septembre 2016. Et pour Steam classique, la dernière mise à jour.
Il y a deux ans.
C'est 17 jours. Oui, mais toi, tu utilises Steam le runtime ou tu as un Steam OS?
Non, je suis pas assez poussé dans le délire. Il y a peut-être moyen. Par contre, je vois le SteamOS kernel mise à jour régulier sur le dépôt. Par contre, il faut au minimum une version 4.x du noyau.
Et toi, tu as eu la dernière il y a 17 jours.
Donc la base du SteamOS, genre 523 000 commits.
Voilà.
Depuis qu'il est... Ouais,
bah c'est ça. Parce que ce que je dis, c'est la date du 3 février. Voilà.
Je regarde. Non, mais il y a l'air d'avoir des choses qui se passent. Par contre, je pense que clairement, ils se sont rendus compte que SteamOS, c'était pas assez, que c'était difficile à maintenir. Et je pense qu'ils ont refocus, ils développent leur kernel, ils font les clients pour un Ubuntu ou quoi. Et quand ils seront assez matures, ils remettront tout ça sur un SteamOS. Je pense qu'ils se sont rendus compte que le truc, il était passé. Mais ce qui se passe, c'est que le problème du gaming sur Linux, c'est ouais, t'as Steam qui s'y met et tout. Mais les cartes graphiques, elles suivent pas. T'as aucune carte graphique. C'est difficile d'avoir des pilotes. Et tant que les constructeurs se seront pas mis à fournir des pilotes, ce sera difficile de faire du jeu sur Linux. Heureusement, ça va vraiment dans le bon sens. Tous les constructeurs se mettent à fournir les pilotes sur Linux. T'as les trucs Vulkan là qui sont open. Tout le monde s'y met. Même Windows va open sourcer leur DirectX. Open sourcer leur DirectX. Donc ça va dans le bon sens. Faut juste laisser le temps aux choses de se faire. Mais c'est clair qu'actuellement c'est des périodes difficiles et c'est mieux qu'il y a encore 6 mois, 7 mois en arrière. Mais ça reste encore, c'est clair que c'est pas le paradis.
Donc c'est là où je dis, faut pas me dire que Linux, que les distributions Linux qui font tourner le Steam Runtime sont les mêmes que le Steam OS en lui-même.
Vas-y, j'en ai à continuer. Hein.
Après, si tu peux l'expliquer mieux, Morgane. On est d'accord ou pas? Ou c'est moi qui ai de mauvaise foi?
Mais hey John, tu sais, un jour je pense qu'on va te laisser le micro, on va faire un apéro des papas manchots, on va te laisser tout seul et tu vas parler de toutes tes misères avec ton SteamOS.
Je
pense que là il y aura au moins une heure et demie d'épisode John tout seul avec son face à sa machine et les jeux qui fonctionnent pas.
Mais ça, c'est les vendeurs. Il y a aussi les vendeurs de jeux. Enfin, c'est compliqué la situation. Mais il y a aussi les vendeurs de jeux qui veulent vendre.
Non, mais c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi.
Graf. C'est quoi ta carte graphique, Nvidia?
Je verrai. Moi, j'ai une GTX 940. Donc, on va voir après quand j'aurai quelques jeux.
Alors voilà, c'est comme moi. Radeon, c'est le. Bah si, Radeon, c'est une carte graphique. Mais Radeon, c'est le pire des pires sur Linux. Nvidia, c'est celle qui a l'air de le mieux s'en sortir. Enfin, qui du moins.
Alléluia.
Ouais, mais ça c'est ce que le gars dit. Moi, je vois avec Civilization 5, j'ai galéré avec ma Radeon. Il a fallu que j'attende les derniers pilotes. Et par contre, Nvidia, ça marche. Et même pour la 6, par contre, la 6, on n'a pas fait la connerie de. Ils disent, nous, on supporte que Nvidia.
Voilà. Et encore un exemple avec Wine. Hein. Et puis après, on va arrêter sur Steam. J'ai un jeu. Et lui, il est encore plus fort. Je l'ai lancé. C'est Tower Epic 2. C'est un jeu de stratégie. Et là, le truc, eh ben, il se lance avec Wine pour copier-coller le code de la clé CD. Impossible, je peux pas. Je dois les marquer manuellement sur le truc. Le copier-coller le refuse, vu qu'il le lance avec Wine. Et en plus de ça... Attends, c'est pas fini. Et en plus de ça, il me le met en QWERTY, mon clavier. Il te précise... Franchement, et te mettre compatible Linux. Non, mais est-ce que je me mets le doigt dans l'œil ou pas? Mais à côté de ça, il y a des jeux qui fonctionnent très bien.
Bon. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Bon, je vais continuer un petit peu sur la lancée par rapport à Steam, mais sur un sujet qui va être un peu plus ancien, puisque je vais parler de mon projet, d'un de mes deux projets de 2017 que j'avais prévu d'annoncer. J'ai l'intention de monter une borne d'arcade chez moi et faire une borne via un Raspberry Pi 3, donc que j'ai eu à Noël, mais qui est parti faire un tour, faire des démonstrations de domotique entre deux, donc je l'ai récupéré que récemment. Et donc j'ai installé Recalbox, qui va être ma base, qui va me permettre de pouvoir émuler des jeux. Et je voulais parler un petit peu de mon expérience par rapport à l'installation. L'installation, bah, c'est assez facile, hein, mais il y a un point négatif. C'est-à-dire que il y a le site qui explique très bien comment l'installer, mais uniquement via Windows. Parce qu'en fait, la manière la plus simple de copier l'ISO sur la carte SD qui va la micro SD qui va te permettre de lancer le Raspberry Pi et l'OS, c'est de faire une copie à la racine de la carte SD et de la formater. Et de la meilleure manière, bah je l'ai faite via Windows. J'ai pas réussi de faire un DD via mon Linux Mint. Quand tu lances le...
Avec Win32, non?
Non, j'ai pas réussi. Non, j'arrivais pas. Que j'arrivais pas à copier à la racine de la carte, tandis que sur Windows, bah, ça m'a pris 2 minutes à le faire. Et quand tu lances le Recalbox, donc moi je suis sur la version 4 actuellement, il y a la 4.1 qui vient de sortir, c'est vraiment du libre qu'il y a dessus, parce que les émulateurs, par exemple, tu n'as pas les BIOS de certaines consoles qui sont propriétaires, tu n'as pas les jeux, les ROM, puisque tu es censé avoir que des copies de sauvegarde de tes jeux, et tu n'as pas certains thèmes qui sont propriétaires également. Donc, par contre, c'est assez facile puisque l'installation des jeux et des BIOS. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous donnerai quelques petites astuces. Je vais pas les mettre dans les notes de l'émission, mais ça se fait via l'IP de ta Recalbox et tu fais un glisser dans tu glisses les jeux selon les consoles que tu as besoin et ça va te débloquer automatiquement les consoles dont le BIOS est libre. S'il ne l'est pas, eh bien tu dois les télécharger et là si vous avez besoin, j'ai également un petit tuto qui va permettre de pouvoir les installer. Mais ça je le mettrai pas dans les notes parce que je vais pas trop épiloguer parce qu'on est déjà pas loin de 2 heures et donc on va peut-être pas non plus épiloguer pendant longtemps. Mais en tout cas voilà, c'est une première partie. Pour l'instant, les manettes, ça se reconnaît facilement par rapport à d'autres versions que j'ai pu faire. Les manettes PS3 filaire et Xbox 360 filaire fonctionnent. Il y a Kodi qui est installé également dessus, qui fonctionne nickel. Mais vraiment nickel par rapport à d'autres anciennes versions. Une très bonne impression. J'ai réussi à lancer des vidéos YouTube sur ma télé avec ma bande passante toute pourrie, j'ai réussi à le faire sans problème. Et ce qui est amusant, c'est que le Recalbox est compatible Retro Achievement, donc je pense que je vais m'amuser à me créer un compte dessus. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est Retro Achievement.
Ah oui,
ça
c'est
permet
super,
en fait
ça.
De débloquer des, et c'est le même principe que sur les consoles actuelles, t'as un système de succès sur des vieux jeux. Donc c'est amusant aussi. Je crois que je vais me créer un petit compte là-dessus. C'est marrant, ça peut. Et puis t'as tes comptes en ligne, donc tu peux dire ok, j'ai débloqué ça.
Tu peux jouer à la Game Boy ou jeu de Game Boy.
C'est Game Boy Advance. En gros, ça va de l'Atari 2600 à la PlayStation. Ça, ouais.
PlayStation 1.
Et la 4.1,
c'est
la
Pokémon.
Ça fait tourner du 3D.
Ouais. La PlayStation et la 4.1, c'est jusque la Dreamcast. T'as pas mal de petites choses. D'accord. Et par contre, oui, actuellement, il y a des petites consoles pour l'instant, comme le 32X, le Mega CD. Déjà les Mega CD, c'est un peu l'usine à gaz à chaque fois pour le pour le lancer même en émulation classique, donc là ouais j'ai encore un petit peu de mal. Et le 32X et le Mega CD, ce qui est curieux, c'est que je suis censé avoir les réussi à récupérer les BIOS, et les jeux que je possède sur les 32X ou Mega CD, dont j'ai récupéré les ROM, bah quand tu les drops dans l'IP de la Recall Box, bah, ils n'apparaissent même pas, ils se dropent pas en fait. Donc je comprends pas. Donc si vous avez des conseils à me donner là-dessus, je veux bien, je suis preneur. Voilà, voilà. Et bon, bah, au fur et à mesure de la saison, bah, je vous dirai où en est cette borne, parce que là, je suis à la recherche d'un écran et d'enceinte. Et ensuite, bah, je m'intégrerai au bois et au bouton de la borne. Et alors, j'ai.
Mais c'est quoi, c'est que tu vas te construire toi-même,
une vraie borne.
Genre, tu dois te construire.
En attendant, tu peux regarder le lien que je t'ai mis dans les notes.
C'est des stickers pour une borne, ça? C'est quoi, ça? J'ai pas compris ce que c'était, John.
Non, non, c'est un papercraft.
Ouais, et tu l'imprimes et tu peux le couper pour coller sur une borne.
Un papercraft.
Non, c'est... Ah oui, d'accord, ah non, j'ai compris.
Un origami, ah, ouais, si tu préfères.
Ok.
Tu mets tes Lego
oui,
en face.
Oui, j'ai compris. Ah ouais, j'ai compris.
Et moi, des cas, du coup, je demande juste... J'ai compris. En fait, la Recall Box, tu vas devoir, genre, créer ta manette, genre, tu peux faire un truc, tu sais, genre, les trucs d'arcade, là, où tu joues à Street Fighter sur un machin, là,
voilà.
Genre un joystick avec les boutons.
C'est le but.
Et du coup, tu peux faire, exactement, genre, créer deux manettes, où tu peux jouer avec ton collègue.
Tu peux jouer... Alors, d'après ce que j'ai pas... Je suis pas... Tu peux jouer jusque 4, voire 8. Donc, parce qu'en fait, tu peux avoir physiquement deux manettes sur la borne, et 6 en Bluetooth.
Ok, donc c'est un petit geekage un peu hardware aussi qui va te permettre de faire genre du Bluetooth ou des trucs comme ça, monter tes composants.
Là, bon, a priori, le Bluetooth, j'ai pas encore testé parce que j'ai deux manettes 8-bit doux que j'ai pas encore testé parce que comme j'ai ces manettes filaires là, mais je vais m'amuser à les tester là-dessus. Et puis après, bon, là principalement, je suis bloqué sur l'écran et une fois que j'ai ça, je vais partir sur le mélaminé pour faire mes découpes. Et là, je recherche un plan pour faire une borne qui soit pas trop haute, mais qui soit large, suffisamment large. Donc là, c'est ça. Et bon, a priori, j'ai vu des kits qui permettaient de pas souder les boutons, donc qui sont plus simples. Donc ça va être un peu mon gros projet de l'année 2017. Ouais. En dehors de ça, je suis allé outre Kievrin.
Et j'ai un petit plan radin pour toi, Deka, si tu veux.
J'écoute.
Pour le bois. As-tu une école de menuiserie pas loin de chez toi?
Non.
Il va faire un projet aux étudiants.
Eh ben, tu peux leur demander de le faire faire travailler.
Non, 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 non. Mais
dans le Nord, il y a
j'ai un plan avec un.
Bah écoute, en mécanique, c'est ce qu'on faisait, nous. Tu pouvais apporter ta voiture.
C'est pas mal, ça. Alors moi, j'ai un plan, mais j'ai un plan avec un makerspace.
Ah, en plus, tu rencontres des gens qui s'y connaissent, c'est bien, ça.
Ouais, donc je vais peut-être y aller aussi si j'ai continué à avoir des problèmes avec ces BIOS, là, parce que je sais que je suis pas le seul à avoir le même projet, hein, donc je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil. Bon, est-ce que vous avez encore des questions pour que je puisse j'enchaîne sur ma visite en Belgique?
Attends, en Belgique?
Oui, je suis allé au Fosdem. Connaissez-vous le Fosdem?
C'est pas un tout. Comment ça s'appelle C'est pas. Je sais que Julien y avait été, vous étiez rencontré là ou je sais pas quoi là.
Non, je devais le rencontrer, je l'ai pas vu. Alors, le Free Open Source Developer European Meeting.
Tu vas aller dans un truc de développeur, Deka?
Ah, attention, je n'y vais, attention. attention. J'y vais pas de la même manière que vous y allez. Qu'ils vont, parce que moi déjà quand ils y vont, en fait c'est, il y a plus de 8000 visiteurs, il y a 600 conférences en deux jours. Moi j'arrive le dimanche matin à 9h30, je repars à 11h30. Mais moi la seule chose que je fais, c'est que je fais du covoiturage pour des certifications Linux Professional Institute. Et en même temps, moi, pendant ce temps-là, je me fais une petite bière, je fais mon petit tour sur tous les stands qu'il y a sur les deux bâtiments annexes. Et d'habitude, il y a des choses très sympas.
T'achètes des goodies.
Notamment parce qu'en fait, il y a des deux bâtiments qui sont... Il y a des stands avec Firefox, Jenkins... LibreOffice. L'année dernière, il y avait un espèce de drone araignée open source qui grimpait sur les murs, qui était assez sympa.
Firefox OS. Ah bah non. Oups.
Non, mais j'ai touché un téléphone Firefox OS là-bas. C'était la seule fois que j'ai eu un Firefox OS dans les mains. Et cette année, alors le dimanche matin, c'est la première fois que j'allais que le dimanche matin, et j'étais un petit peu déçu. Il y avait beaucoup moins de stands que les autres années. Beaucoup moins ouvert que ça peut l'être au grand public. Là, il y avait beaucoup plus de conférences d'une part. Donc moi, les conférences en anglais qui va parler de Jenkins ou Docker, oui, ok. Moi, comprendre un mot sur 10, donc on va pas y aller. Voilà. Et puis moi, pas aller attendre 3/4 d'heure devant la porte entre deux personnes qui vont parler, deux barbus qui vont pas comprendre, et moi pas comprendre ce que eux dire. Moi, pas parler la même langue. Parce que, par exemple, mon meilleur ami qui est un développeur, quand il parle, il dit qu'il parle anglais, mais moi, je comprends pas quand il parle anglais. Parce que lui, c'est des trucs à mettre dans le,
comment? C'est du langage technique.
Voilà, c'est de l'anglais technique. Donc lui, il dit qu'il parle anglais, mais dis-moi, pas comprendre ce que toi dire. Toi, parler anglais technique. Et donc, voilà, je vais juste vérifier les trucs à côté. Et j'ai faire les tours à côté, les trucs un peu plus ludiques. Et cette année, j'étais un petit peu déçu. Donc, bon, j'espère juste que les petites ouailles que j'ai emmenées avec moi pour faire les certifications LPI auront réussi leurs examens. Au moins, je ne serai pas allé pour rien. Il y a quand même une petite chose que j'ai retenue. Est-ce que vous connaissez le projet Olimex?
Pas du tout. Mais par contre, mais t'y as été ou tu vas y aller?
J'y suis allé, c'est fini, c'était le week-end dernier.
Parce que ouais, je vois qu'il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Ça a l'air pas mal.
Oui, ils font non, mais si tu veux y aller, pour voir vraiment des conférences autour des développeurs, là, c'est vachement intéressant. Hein. Et toutes les conférences, elles sont visibles dans quelques jours après sur Internet, elles sont toutes filmées.
Bah honnêtement, peut-être là, que l'année prochaine, je vais demander à la boîte de me payer
un petit week-end là-bas.
Ouais, franchement, non mais je regarde le truc, genre du Core OS, les partenaires, il y a HP, quand tu vois leur PC, je suis étonné qu'ils sont partenaires open source, mais enfin bon. Ouais, t'as du Red Hat, du putain.
Mais c'est toujours les mêmes partenaires d'ailleurs. Toujours les mêmes. Ça me fait toujours un peu rire par Google, mais bon. Bref. Alors moi, chez Olimex, il y a un truc qui m'a assez marqué parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé intéressant dans les petites dans les petites allées que je vous disais là. Il y avait possibilité de faire son propre laptop en open source, open hardware et open source avec des kits complets. Alors qu'ils sont tous là, ils sont tous out of stock, mais voilà, avec une architecture 64 bits, un écran 11 pouces, mais c'est tout le monde toi-même, hein. Donc a priori 1 giga en DDR3, 4 giga en mémoire flash. Voilà, une batterie 980 grammes. Ça fait plus penser à c'est aussi performant qu'un Chromebook, hein. Je veux dire, c'est pas non plus un Chromebook de base, hein, on va dire, mais 225 €, tu le montes toi-même. Après, faut aimer le souder à l'état.
Ah, mais bon, t'as le plaisir de te le monter toi-même, quoi.
Ouais, exactement. Faut avoir le plaisir de l'avoir monté soi-même. Mais ouais, ça peut être assez amusant. Et j'en ai vu quelques-uns qui étaient en train de s'amuser à monter ça. Et ils vendent également toutes les pièces détachées, que ça va du clavier aux petites, t'as les barrettes de RAM, à la batterie, t'as tout ça, et donc il y en avait certains qui essayaient de monter ça sur le week-end complet avant de repartir du Fosdem. Donc ça, c'était le seul truc que j'ai vu vraiment d'intéressant au cours de ma visite, parce qu'après c'est toujours les mêmes stands, hein. Il y avait du CentOS, il y avait
Pour le coup, c'est un gros goodies
à ramener. Ouais, mais là, tu le payes. Tandis que si tu veux te faire des autocollants, tu veux décorer ton PC, là, tu peux en ramener des trucs. Hein. Il y a même une année où j'ai eu la joie et l'honneur de rencontrer le fameux Captain Posix et qui m'a négocié un t-shirt OpenSUSE. Donc, je suis baladé pendant un moment en vacances avec un t-shirt OpenSUSE. Il y a personne qui s'est demandé ce que c'était.
Mais bref. Alors, je vais enchaîner.
Ah bah ouais. Par contre, je suis en train de... Juste, je regarde... Enfin, je te coupe, je regarde. Alors déjà, il y a des trucs intéressants. Enfin, déjà, les vidéos, je regarde ce que du coup, c'est passé. Je regarde les vidéos. Déjà, c'est le bordel. Je pense qu'ils font exprès pour pas que tu puisses retrouver ce qui se passe vraiment. Enfin, c'est... Bon, c'est pas du tout mis en avant. Mais il y a des trucs super intéressants, genre YouNoHost, qui est pour s'héberger soi-même. La Freedom Box, qui est un projet que j'avais présenté, genre, il y a 5 ans en arrière, quand je commençais les études en informatique, qui est en fait un... Putain, je savais même pas que ça vivait encore, ce truc-là. Freedom Box, c'est un projet où les mecs, en gros, chacun a une Freedom Box, et du coup, ça refait du P2P, quoi. Donc, en gros, on te censure, et ben, ton internet, il va passer par la Freedom Box, il va passer par celle de ton voisin, qui va passer, tu vois, un peu comme Tor. Et c'est une petite box que tu fous chez toi, comme ça, qui permet... Je pensais que le truc était mort, ça avait jamais abandonné. Là, je vois Freedom Box au Fosden, purée. C'est... Ah, franchement, je te remercie, Deka, parce que je connaissais pas du tout le délire. Et je t'avoue, là, que tu me donnes bien envie... Ah,
réserve ton premier week-end de février en Belgique, l'année prochaine.
Ouais, je pense que je vais aller me faire un petit tour. Je vais essayer de négocier pour y aller. Hein. Franchement... C'est combien le billet, tu sais?
Tu payes ton voyage en train ou en voiture, c'est tout.
Les conférences, c'est gratuit.
Arrête.
No registration necessary. Tu viens, t'attends devant et tu vas là-bas. Alors si tu vas en voiture, amuse-toi bien parce que c'est que le quartier des ambassades. Donc pour trouver des places, si tu vois des places où c'est marqué CD, bah faut mieux pas te garer dessus. Ça, je peux te le garantir qu'elles ne vont pas rester longtemps dessus.
Pourquoi CD? Diplomatique. C'est quoi ça, CD?
Ah donc voilà, moi okay. J'en ai vu un qui s'est garé devant la l'ambassade de Tanzanie. Il s'est garé devant l'ambassade de Tanzanie, la voiture elle était pas là à son retour, hein. Plus avec un bon, alors le pire c'est qu'il devait le savoir parce qu'il avait un bel accent belge. J'ai fait elle est où la voiture, elle est plus à l'ambassade. Ah, non, corps diplomatique, hein.
Purée. Ah franchement, je te jure, des cas là, je suis dégoûté que tu n'aies pas parlé la dernière fois de ce truc là.
J'avais dit que j'allais faire une annonce et puis c'était bon. Donc
bah si tu veux, moi j'ai on va peut-être en parler après. Il y en a une autre.
Oui, tiens, oui, c'est vrai. Ah ouais, tiens. C'est vrai que c'est ça, John, t'as bien fait de reparler de ça. Voilà. Donc ça, c'était mon petit retour sur le FOSDEM. Et j'ai découvert par hasard une appli que je connaissais pas du tout et qui est libre open source via un autre podcast que je connais et que on n'a pas souvent parlé et que John connaît également. Alors c'est pas vraiment un podcast autour du libre.
L'entraille des enfers.
C'est moi je rêve. Alors si vous avez un plan pour que je puisse contacter le Captain Web et que John, Morgan et moi un jour on peut aller visiter cette mythique cave du 12e arrondissement de Paris, hein, on veut bien y aller parce que c'est le podcast francophone indépendant numéro 1 autour de la high-tech, c'est l'apéro du Captain. Et ils ont un chat qui est ouvert sur Discord app. Et ben j'ai trouvé que l'interface était assez sympa, hein. J'ai testé que le chat, je sais pas si vous avez testé la VOIP là-dessus, mais l'interface sympa, il y a plein d'icônes, c'est ludique, c'est fluide, ça change d'un calan IRC on ne peut plus classique avec 50 000 pseudos, là tu peux changer ton petite image donc tu peux savoir qui parle plus facilement plutôt que de regarder les pseudos à chaque fois. Vraiment quelque chose de bien sympa. Donc voilà, si vous avez, a priori on peut faire de la VOIP là-dessus, donc si vous jouez en équipe, testez ça, ça peut être sympa, ne serait-ce que pour le chat, quoi. C'était un petit truc rapide. Et une dernière petite chose, c'est une première étape vers le deuxième projet que j'ai. Là, ça va être aussi galère, si ce n'est plus que la borne d'arcade, parce que vu mes compétences, ça est vraiment du basique. Je viens de m'acheter mon nom de domaine. Voilà.
Bah c'est basique, voilà. Il suffit juste de sortir.
Maintenant, je sais. Non. Maintenant, deuxième étape, je cherche l'hébergeur. Donc c'est vrai que je suis toujours sur plusieurs idées. Hein. Voilà. Donc oui, il y a Tux Family, il y a PHP, il y a celui que Morgan disait. Voilà. Je cherche différentes solutions.
L'hébergement, c'est comme le rayon yaourt. tu passes 3 heures parce que t'as plein de choix différents.
Il y en a 1000.
Et c'est pour l'instant, tant que j'ai, c'est plus ça. Il y a tellement l'embarras du choix que, mais je veux pas être, je veux quelque chose de simple, avec une interface simple, et qui me donne un coup de main, éventuellement, pour faire le site.
Bon, honnêtement, faut, tu prends WordPress.
Ouais, mais ça, c'est pas de l'hébergement, c'est juste pour faire le template.
Ouais, pour l'hébergeur, mais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment galère.
Mais, juste, moi, nous, Alpinux, on est sous WordPress. Je sais pas comment ils font pour gérer ça, Blog Linux, mais, moi, je suis envahi de spam. J'ai quelque chose comme actuellement 4000 commentaires de spam et, tu vois, genre, tu peux les supprimer que 10 par 10. Et genre, j'ai la flemme. Enfin, au bout d'un moment, j'essaye de faire ça un petit peu une demi-heure de temps en temps, les supprimer, mais, genre, j'ai des robots de spam de partout. Et c'est
horrible. Faudrait que tu demandes à Patrick en particulier, en fait, mais il en avait déjà parlé dans un épisode. En fait, je crois que c'est un système avec un script qui lui empêche de mettre les trucs, mais il arrive quand même d'avoir des spams. Hein.
Bon, en fait, c'est ce que j'allais dire, en clair, il fonctionne plus, quoi.
En commentaire, je dis que c'est du spam, puis je le valide manuellement. Sauf que, les cons, maintenant, enfin, ils sont intelligents, ils mettent ça dans les adresses email, dans les sites web de la personne, enfin, ils mettent ça partout, et, en fait, je pense qu'à partir du moment où t'es labellé WordPress, t'es fini, les bots, ils viennent, puis c'est toujours du Viagra, des... Moi, ça, franchement, là, je suis épuisé. Ça.
C'est pour ça. Là, franchement, c'est vrai que bon, moi non plus. Hein, avec eux, mon site, tu peux pas mettre de commentaires. Et puis maintenant, actuellement, quand tu veux mettre des liens, ils fonctionnent pas. Et quand tu veux ouvrir l'article, il fonctionne plus non plus. Donc là, pour l'instant, je suis pas embêté, moi. Je suis plus embêté. Ça Donc, je suis plus embêté. Non, non. Là, pour l'instant, j'ai acheté le nom de domaine et pour l'instant, c'est vrai que l'hébergement me pose. Voilà, il fonctionne plus. Donc bon, c'est le site, voilà quoi. Voilà. Je pense qu'on mettra plus le lien du WordPress ou de Alpinux pour aller là. Mais pour l'instant, le mien, non, laissez tomber. Il est en train de signer, faire sa belle mort là. Il est en train de terminer.
Parce que c'est quoi ton budget
pour moi, j'ai entre 30 et 40 euros à l'année. Donc je veux pas, voilà, c'est pour. Non, le nom de domaine j'ai déjà acheté.
Nom de domaine
inclus. Je l'ai payé 6 euros. Nom de domaine.
Ouais, mais c'est pareil, c'est un truc qui se renouvelle, c'est genre 20 euros par an ce truc là. Ouais. 6 euros. En ouais. Courant point quoi. FR.
FR.
Purée. Putain, ça a baissé.
Ah ouais. Hein. Mais ça c'est parce que j'ai pris Don Kluivert, le roi des beaux gosses, irremplaçable point FR.
Don Kluivert et les Don Kluivert et les Don Kluivert.
Après, il faut que je trouve un truc pour que ce soit interdit au moins de 18 ans. Un filtre interdit au moins de 18 ans. Non, non. Rassurez-vous, non, non. C'est quelque chose
bon,
de
sinon,
plus
simple. Non, non, donc, là, je suis en train de regarder un hébergeur où j'étais avant qui s'appelle easyhébergement.fr. Là, ouais. À l'année, donc 2,69 par mois. Ouais, enfin, acheté, donc taxe, ça doit être 3 euros, donc 30 euros à l'année pour 100 gigas d'espace disque.
Non, moi je l'ai acheté chez. Ah ouais, non, non, l'hébergement.
Ouais, pour ouais, en gros 30 euros à l'année, tu as 100 gigas disque. Mais sachant que.
Je sais pas, j'ai peur que ce soit juste en
non.
Fait.
Et sachant que tu peux commencer par un Easy ou genre c'est genre 2 euros par mois, enfin 20 euros à l'année pour 25 gigas. Et tu peux upgrader au fur et à mesure. Mais je pense que
ouais après 25 gigas le temps de mettre tous les apéros
ouais mais
voilà,
dis-toi que l'épisode qui pesait grave et tout Patrick il l'a descendu à 100 de 4 heures il a descendu à 100 mégas, ouais. Ouais. Donc ça fait 2500
ouais,
heures de podcast.
Après tu mets les photos des dents de vert, tu mets les vidéos cachées
heures, ouais non on peut pas héberger que le nôtre quoi. Si un jour les caribous ils sont en manque de en manque d'hébergement. Ouais, les claquettes de John les claquettes de John mais en ultra HD.
Ouais. Hein, t'inquiète, elles vont être manufacturées bientôt.
Photo, hein. Le chiffon de Madame Morgan pour son violoncelle, tout ça lit. Hein. Comme ça, chacun aura ses preuves tendancieuses. Hein.
L'œil au beurre noir de Morgan. Suite après le chiffon sali.
Qui pue la bière. Enfin, ouais, voilà. Mais après, pour du aussi peu cher, franchement, je trouve que 3 euros pour avoir 100 gigas, c'est quand même pas cher du tout.
Bon, Il faut que je m'amuse à monter le template et ça va me prendre quelques soirées. Déjà, mon site, ça m'a pris une semaine pour tout monter. Hein, donc...
Sérieux?
Bah ouais, bah attends, moi je fais ça pendant mes heures perdues, hein, donc, tu sais, père de oui, famille. Non, mais... hein.
Ouais, non mais d'accord, mais ton truc, on dirait un site des années 90. Alors, je veux bien que je suis pas encore papa, mais...
Qu'est-ce qu'il est beau, mon site, avec le fond vert, parce que ma fille, elle m'a dit, faut mettre du vert parce que c'est beau.
Ah, voilà. D'accord. Ne laisse jamais ta fille te dire un jour, je vais faire une école d'art. C'est pour ça que sur le Framapad, t'es toujours en vert, toi.
Voilà.
Ah, ça veut rien dire, hein.
Ah non, c'est le hasard, ça.
Ah oui, en plus.
Non, mais je crois qu'il met un vert en premier. Bon. John avait mis un lien également avec la Capitole du Libre sur les vidéos de l'auto-hébergement, donc ceux qui sont intéressés. Moi, une brique internet, pour l'instant,
oui.
C'est pas trop mon truc, mais John peut peut-être
oui.
expliquer.
Ah, en fait, c'est pas... Pour le coup, la conférence, là, c'est sur toute l'histoire de la brique internet, justement. Généralement, comme dit Bram, donc je sais plus comment on appelle ça, le conférencier, enfin le monsieur qui parle, quoi, nous explique toute l'histoire de l'idée de la brique internet. Oui. Et donc du coup, il nous explique toute l'histoire. C'était pendant les Capitole du Libre 2016, et il nous explique les moments où il y a eu du mou, les entre guillemets les prises de tête, quoi, les ralentissements, etc., jusqu'à ce qu'on connaît maintenant avec ce que tu parlais tout à l'heure des cas Lolimex, qui est donc un petit boîtier qui permet de s'auto-héberger de manière assez simple, quoi. Enfin, qui se veut assez simple. Donc voilà, ça dure une heure.
D'accord. Oui, donc j'avais pas compris. C'est sympa. Bon, en fait, Olimex, c'est aussi un dérivé du. Ça fait. Ça a un dérivé du truc, quoi, du 8 sur self lap.
Bah, c'est comme un Olimex, c'est un Raspberry, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est un petit élément qui te permet de faire ce que tu veux, quoi. Donc voilà.
Ok. Bon, ben donc moi j'ai fini mes geekeries. Il reste, bon, on va dire le meilleur pour la fin. Hein.
Ouais, moi je vais les abréger parce que vu l'heure, il va être minuit et je bosse demain. Mais vu que j'ai teasé au début de l'épisode, donc je vais parler de, si j'arrive à retrouver mon onglet, voilà. Je vais parler non pas de mes aventures sous Windows, je vais garder pour le prochain, mais de mes aventures sous Arch Linux.
Ah oui, on est genre oui, c'est vrai qu'on a entendu parler de toi il y a pas longtemps.
Ouais, justement. En plus, j'ai pas détaillé ce que je devais dire. Alors super, donc je vais me rappeler que d'un cas. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai demandé à Eric, enfin qui s'était gentiment proposé de m'aider à installer Arch Linux parce que c'est quand même un autre niveau Arch Linux par rapport à moi. Enfin moi, tu sais, je suis ingénieur logiciel, donc je m'y connais en informatique, en Linux et quoi, mais de là installer une distribution sans, enfin faire à formater une distribution
mais non,
de commande, tu vois, il y a quand même un monde. Et du coup, il m'avait aidé, il m'a fait donc toute la partie un peu tricky, enfin comment pas tricky, comment dire, un peu compliqué. Et il m'a installé, donc il m'a formaté en ligne de commande, il m'a installé le network, tout ce qu'il disait, tous les problèmes qu'on a eu, quoi. Network manager qui démarre pas tout seul, machin, enfin truc. Et bon bref, après j'ai réussi à installer le wifi, j'ai réussi à installer, j'ai réussi à installer mon environnement graphique. Alors au début j'ai essayé i3WM. Julien en avait parlé, c'était tu sais genre un truc de bien geek tout au clavier. Alors je l'ai installé, j'ai voulu le tester et le truc ça m'a pas plu, enfin ça m'a super plu, je l'ai senti pas mal, jusqu'au moment où je me rends compte que mon écran de veille, comme mon écran de veille, quand je rentrais en veille, je croyais que mon ordi avait bugué. C'est la dédicace au podcast qu'on a loupé. Bref. Voilà, et en fait il y avait plein de petits problèmes graphiques, genre sur YouTube c'est écrit en noir, enfin bref, des trucs qui fait que les fonds sont en noir. Tu sens que c'est vraiment un truc qui est passé. Et j'arrivais quand je tapais des trucs dans des zones texte, on voyait pas très bien. Enfin bref, il y a plein de petites erreurs graphiques comme ça. Du coup, j'ai décidé d'installer un autre environnement graphique qui est genre Deepin OS. Deepin, c'est le truc chinois là que Patrick avait parlé, qui a l'air vraiment pas mal et qui d'ailleurs est vraiment pas mal. Donc ça, je l'ai installé. J'avais donc mon super environnement Deepin qui était vachement joli, qui marchait bien. J'ai même réussi à faire tourner Civilization 5 sur Arch Linux avec les pilotes graphiques et tout. Donc, franchement, je me suis battu avec avec l'audio pour réussir à faire marcher Alsa et tout, pour enregistrer au micro, pour faire passer dans les écouteurs, parce que savoir que quand je branchais une prise jack, ça redirigeait pas automatiquement le son sur mes écouteurs. Je devais y aller à la main et tout pour rediriger le son. Enfin bon. J'avais réussi à régler tous ces problèmes, donc j'avais un Arch Linux qui fonctionnait parfaitement. Et voilà. Et juste, est-ce que vous connaissez un peu le principe de Arch Linux ou pas?
Globalement, oui. Enfin,
en fait,
les grandes lignes. Tu dois l'installer manuellement, quoi. Tout est manuel.
Non, bah oui, tout est manuel, mais
tu choisis ce que tu veux mettre.
En fait, comparé à un Ubuntu ou quoi, qui vient avec un lot de logiciels prédéfinis, Arch Linux, t'as toujours, en fait, c'est ce qu'on appelle du rolling release. Ça veut dire que t'as toujours les dernières versions des logiciels. Elles sont toujours. Alors, là où sur un Ubuntu t'as une version qui est figée, qui est contrôlée, et quand on te livre la version, t'es sûr qu'elle marche. Sur Arch Linux, bah t'as la dernière version. Et généralement, quand t'as les dernières versions, bah t'as aussi les bugs qui vont avec. Et donc mon aventure Arch Linux a fonctionné très bien jusque là, où quand j'ai eu le son qui marche et tout. Puis un jour, eh ben j'ai décidé de mettre à jour mon système. Et là, là les problèmes ont commencé à se poser. Alors dans les listes des mises à jour, j'ai vu qu'il y avait des paquets qui s'appelaient genre dipin- genre musique-rc ou machin dipin machin rc. Donc rc, c'est en fait l'acronyme. Enfin, est-ce que vous savez ce que ça veut dire?
Non,
RC?
pas du tout.
Relay communicateur, non?
Ouais, c'est release candidate en logiciel. Ah. En gros, ça veut dire c'est le stade qui est au-dessus de la bêta. Donc quand je vois qu'il me propose d'installer des logiciels qui sont en bêta sur un environnement de bureau qui est déjà en bêta, ça me fait un peu peur. Mais bon, j'ai posé les mises à jour. Et là, mon panneau de contrôle, parce qu'en fait sur DeepinOS, sur la droite, t'as ton panneau de contrôle, tu peux tout régler sur la droite, genre mettre ton Wi-Fi, rediriger ton son, gérer la luminosité de l'écran, enfin tout est sur la droite. Et là, le truc qui était complètement buggé, c'était juste un truc tout noir, et je pouvais rien faire dessus. C'est une fenêtre toute noire. Alors, en fait, faut savoir que Deepin c'est basé sur Qt, qui est un framework Qt, on dit, qui est un framework C++. Ouais, c'est basé sur Qt, qui est un framework C++. Et voilà, suite à la mise à jour, j'ai eu des bugs. Bon, après, je me dis, voilà, c'est normal, c'est un bureau bêta, machin bêta. Après, je décide d'installer Telegram. Est-ce que vous savez ce que c'est Telegram?
Ouais, c'est une messagerie cryptée.
Je décide d'installer Telegram, et là, je lis dans les, en fait, je passe par un truc communautaire, enfin bref, le logiciel qui s'appelle Yaourt pour installer Telegram. Et là, je vois que c'est écrit, genre, attention, Telegram utilise Qt, mais, genre, ils ont une façon de régler les bugs de Qt qui est plutôt sale, enfin voilà, je t'ai prévu. Je fais OK, installer. Et à l'installation, j'ai eu des bugs de compilation du logiciel. Du coup, j'arrête là, au premier bug. Puis j'installe les binaires tout faits. Et en même temps que j'ai installé Telegram, j'ai aussi mis à jour mon logiciel. Alors ok, j'ai déjà dit que j'avais mis à jour. J'ai oublié de préciser que quand j'ai installé Telegram, c'était genre 3 semaines plus tard. Donc j'installe Telegram et je décide aussi de mettre à jour. Il met à jour ma stack graphique qui est Mesa. Enfin, mes pilotes graphiques qui sont Mesa. Et là, je redémarre et bim, plus rien fonctionne. Genre si j'ai de la chance... je pouvais utiliser mon ordi pendant 30 minutes. Quand j'avais pas de chance, à peine je démarrais mon desktop, au bout de 30 secondes, ça frisait. J'avais des messages genre ma carte graphique est bloquée, machin. Et en fait, Telegram, ça utilise Qt aussi, tout comme mon environnement de desktop qui était Deepin qui utilise Qt. Donc je pense que en fait le fait de faire de la mise à jour, ça a tout pourri. Donc ma conclusion, c'est quand tu utilises Arch Linux sur des logiciels qui sont pas forcément matures, tu vois, genre sur XFCE, sur GNOME ou quoi, ça pourrait peut-être mieux marcher, mais quand tu commences à utiliser des logiciels qui sont pas matures, tu tapes, t'es le premier, vu que tu as les logiciels les plus à jour, t'es les premiers à te taper les bugs. Et voilà, et genre quand ça commence à être des bugs graves où tu peux pas utiliser ton PC plus d'une demi-heure ou des choses comme ça, tout le monde me disait non, Arch, ça marche parfait, j'ai jamais de problème dans les mises à jour, ou c'est toujours que ma faute.
Faut pas voir de ce côté-là, vois que tu aides les prochains.
Ouais, mais du coup,
grâce à toi, des cas n'aura pas de problème.
Franchement, j'ai désinstallé Arch, je suis repassé au Ubuntu parce qu'au moins ça. Ouais, il n'y aura plus de problème sur ce Ubuntu. Mais voilà, donc moi mon expérience Arch a été plutôt mauvaise, et en conclusion je dirais que c'est parce que j'utilise du logiciel qui est pas stable, et forcément les bugs t'en as plein quand c'est pas stable, Et en plus, t'es les premiers à te les taper, donc et parfois ça peut faire mener à des bugs graves. Donc voilà. Après, t'entends souvent les gens parler de
Elsa.
Super documentation, le super wiki arch fabuleux machin. Genre que j'ai eu un problème de régler mes trucs son. Donc moi aussi j'ai dû dealer avec Alsa Mixer et Pulse Audio là. Tu vas sur le wiki de Arch. Alors t'as tous les cas possibles. Alors c'est sûr, il est bien fourni. Mais alors t'es un débutant. T'as jamais entendu parler de Pulse Audio ou quoi, et bah t'es complètement paumé. Toi tu veux une pauvre ligne de commande qui te redirige le son sur ta prise de jack, et bah l'information elle est noyée dans plein d'autres choses. Donc le wiki Arch est bien, il est complet, mais alors il est vraiment pas orienté les débutants. Tu veux commencer sur un sujet où tu n'y connais rien,
bah,
t'es noyé d'informations et c'est bah, tant mieux, c'est bien parce que tu trouves tout, tu peux approfondir le sujet et tout, mais il manque une petite partie orienté débutant, on va dire. Voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule retour d'expérience sur Arch Linux quand t'es pas forcément
j'ai pas tout suivi, j'ai eu une interruption avec mon animal nocturne hein, donc excusez-moi, j'ai dû m'absenter.
Tout ça pour aller aux toilettes quand même.
Il y a un animal qui aboie, moi j'ai un animal qui ronronne la nuit.
Tu parles de ta femme.
Non, c'est mon chat qui m'a grimpé dessus, j'ai dû lui ouvrir la porte, bref. Voilà, c'est les impondérables du podcast à domicile. Hein. On a des choses qui se passent pas comme d'habitude. Entre le lave-vaisselle et le chat, cette fois-ci, c'est moi qui fais les bruits parasites. On a eu le problème d'Alsa Mixer, cette semaine, on a le décalage. Et les bruits parasites, voilà, on est loin d'être parfait. Bon, Alpinux, au moins, ils m'ont enregistré dans un studio. Eux, ils ont un meilleur son. Je sais pas si vous avez écouté, tiens, un petit truc vite fait, après que je sais pas si on va finir tous les sujets qu'on avait
ouais,
sur l'équipe.
Ouais, ça va. Je vais coller des boîtes de moi. sur les
ah
murs.
Ouais, c'est pas bête. Faut les pas grand noir, John. Pour faire un vrai studio enregistrant. Et puis tu fais, ok, on fait le repeat. 3, 2, 1.
Ah non.
Ok, tu contrôles les basses. Ok, monte le micro. Ok. Est-ce que t'as mis tout en stand-by pour l'instant? Ok, on lance l'enregistrement. Voilà, ça fait un peu studio enregistrement. Ça fait pro, tu vois. Mais nous, on l'est pas. On est des amateurs. Tu vois, c'est comme dans certains milieux avec un X. Il y a les amateurs et les professionnels.
Ah d'accord. Ouais.
Voilà. Je ne sais même plus maintenant à cause de tout ça, je ne sais même plus ce que je voulais parler. Donc tant pis.
Les animaux nocturnes, tout ça.
Non, c'était même pas.
Enfin, les animaux,
pardon. Même pas par rapport à ça. Non, c'était. Je sais même plus. Bref, ça devait pas être.
Il y a eu une news.
Non, c'est de savoir. Non. Donc Morgan, tu avais fait le tour de tes aventures sur ça. Est-ce que John, tu veux faire ta combat, la commande ou pas?
Je sais
Garde
pas
la,
en fait.
Tu ne sais pas. Tu la gardes.
C'est assez long.
C'est assez
et
long.
Vu le décalage, si je dis des bêtises, Morgan ne risque pas de m'interrompre à temps.
Bon.
Ouais.
Ok. Bon, on va se garder ça pour la prochaine fois.
Bah, avec mon décalage, c'est long, quoi.
Oui, c'est surtout ça. Et c'est vrai que là, pour le montage, ça risque d'avoir quelques blancs que je vais devoir couper.
Ouais.
Je crois que celui-là, je vais me le réécouter en entier. Donc, ça va. Ouais. Bon, après, il devrait être moins compliqué au niveau du son.
Ouais.
Donc ça sera déjà pas mal. Bon bah écoutez, je pense que on va conclure là-dessus.
Ouais, je vous dis bonne soirée.
On se retrouve dans un mois. Et puis bon bah
attends,
oui.
Pas ça. La bonne nouvelle qui est en mars.
En mai. Vas-y John, annonce.
Bah je te laisse.
Ah bah.
L'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a en mai?
En mai, le 20 et 21 mai, il y a là où?
À Porte de la Villette.
Ah, c'est Porte de la Villette, j'ai même pas fait attention. Alors, bouge, je dis, allez, tiens. C'est la Ubuntu, alors je sais plus si c'est la Ubuntu Party ou la Ubuntu, comment ils appellent ça?
Conférence?
Si, Ubuntu Party.
Non, ouais, il y a Ubuntu Party où ils installent, ils font une install party plus quelques confs. Et là, il y a la Ubuntu Con, qui est une conférence européenne qui aura lieu à Paris.
Oui.
Donc je crois que c'est la Ubuntu Party alors
ouais.
Qu'il doit y avoir lieu à le 20 et 21 mai.
Tout parti.
Ah bon?
Arrête, moi aussi. Il se peut, mais je fais un peu partie de la
ah
Ubuntu
ouais
FR.
Oh là là. Voilà, donc
j'ai t-shirt Ubuntu FR et tout.
On va peut-être y aller. Moi par contre, je pourrais.
Ah, tu veux pas nous en envoyer? Pour le mien, bah, tu me rajoutes une paire de claquettes.
On va essayer de se rencontrer là-bas.
On va essayer de s'organiser ça. Mais il n'y a pas qu'à.
Moi, c'est à 800 km. Enfin, c'est genre à 600 km.
Ouais, non, moi, c'est un petit peu plus près, quoi. Moi, une heure et quart, j'y suis, quoi. Avec le train. Donc, on va peut-être pouvoir.
Moi, ça va. Une demi-heure, une heure.
C'est bien la Ubuntu party, hein.
Ouais, les gars, inscrivez-vous en tant que bénévole, ils vous payent leur
pas. Je pense que je vais pouvoir y aller que le dimanche, hein, donc.
Bah, c'est pas grave, tu t'inscris en tant. Ah ouais, par contre, le repas est le samedi. Ah ouais. Tu t'inscris en tant que bénévole le dimanche.
Et... 11h-18h, bah écoute, on va peut-être. On verra. En tout cas, on essaiera de. On va en reparler, on a le temps, on a 3 mois pour s'organiser, mais ça peut être une possibilité de nous rencontrer et de peut-être de rencontrer nos fans en délire, en transe, quand on va se balader avec nos t-shirts, avec le tux, avec ses bouteilles de bière et avec nos pseudos derrière. Il y a John qui on va lui envoyer des claquettes pour qu'il se fasse les un Jack aussi.
Un Jack. Voilà. Le mien aura
un Jack et des claquettes.
Et un Jack et des claquettes.
Morgane, on lui jettera des chiffons.
Bon allez les gars,
je pense que là on va y arrêter.
On a 2h30.
Bon. En tout cas, on en reparlera et on sera ravis de vous retrouver dès le mois prochain pour le 5e épisode de l'apéro des papas manchots. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Ciao.
Allez, ciao. Au revoir.